Hey, c'est le mix, hein? Oh, oh! Vous allez bien? Ça stream, hein? Pop, 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 pop. Je m'étais dit qu'il y avait un monde. Tiens, je vous cache le sommaire. J'ai déjà préparé le sommaire, je suis un fou. Je vous avais dit, il y a un monde où on pourrait s'installer vers sur du 200 heures de stream par semaine. Hein, quand bon an, mal an, on était sur du 150, 160 heures avant. Il y a un monde où on peut s'en approcher. Très heureux de vous retrouver sur Twitch. Une petite dizaine d'heures de stream hier. Une petite dizaine. Alors, 200 heures par mois. Ou par semaine. Mais je dis par semaine. Non, par mois. Ah non, par semaine. Attends, j'ai la calculatrice. 300 heures divisé par 4, par 7. Ça ferait 42 heures par jour. J'ai dit par semaine, ça ferait trop. Hein. Non, par mois. Par mois. Par semaine vendue, t'as dit, mais c'est impossible. C'est impossible. Bon, déjà, j'ai réparé TikTok. Je sais pas, logiciel de live, TikTok live, là. Je sais pas, je lui ai demandé trop de trucs, il a bugué. Normalement, j'ai réparé. Double chat. En plus, j'ai changé la mise en page. En plus, sur TikTok, ouais. Cette revue de presse, on n'arrête pas de l'améliorer. Sur Twitch, le sommaire, ah, notamment. Et sur TikTok, pareil. Je cherche la bonne mise en page. Parce qu'un écran de vertical, il y a moins de trucs. Et puis le chat, il est... Tu ne peux pas le mettre où tu veux, quoi. Donc ça y est, j'ai mis le sommaire à un certain endroit. Salut, j'ai mis TikTok. J'ai mis le sommaire à un endroit, j'ai mis les articles à un autre. Voilà. Ami TikTok, bonjour, j'ai changé la mise en page pour vous. Puis j'ai réparé TikTok aussi. Enfin, j'ai pas réparé que mon TikTok, j'ai réparé le TikTok mondial parce qu'en fait, il y avait un souci. Ouais, j'ai réparé le prompteur et l'escalator de l'ONU aussi. Pour Trump, là. Ouais, oh bah ça rigole pas. Hein. Ça va le son d'ailleurs? Attends, j'ai pas vu. Attends, je vérifie mon son toujours. Alors, on est à combien là? 100, 180? Ouais, nominal. Oui, j'ai réparé TikTok. J'ai réparé TikTok et puis alors le truc dont je suis très très fier. Tiens, je vous ai même mis le sommaire sur TikTok. On a le temps de le mettre. Et là, je suis très content parce que un truc que vous me demandiez depuis wouh, littéralement des années, 5 ans que cette revue de presse existe sur Twitch. Salut David. Quelques semaines que je la mets sur TikTok et quelques jours lundi qu'elle est en podcast. Ouais, podcast audio sur toutes les plateformes de podcast, les Spotify, les Deezer, tout ça. Et j'attends le retour des équipes dans cette fin de semaine pour faire un premier bilan. Bon, moi, j'y connais rien. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'écoute. Voilà. Mais c'est cool, comme ça, vous pouvez plus m'échapper, en fait. Vous ne pouvez plus m'échapper. J'attends la version papier. Oh là là. Vous ne pouvez plus m'échapper. Partout, je serai. Twitch, je serai. YouTube, je serai. TikTok, je serai. Les podcasts audio, je serai. Ouais, t'as raison, je suis un journal papier aussi. Et on me trouvera dessus. Dans ton salon, je serai. Partout. Donc, heureux de vous retrouver. Bah, une dizaine d'heures de stream hier entre la mini-revue de presse du matin, le mercredi. Pardon, les amis de TikTok, soyez pas. Vous m'en voulez pas, mais hier, avant-hier, j'ai crashé la revue de presse sur TikTok parce que j'ai supprimé mes scènes en live. Hier, je ne l'ai pas faite hier matin parce qu'en fait, c'était une mini-revue de presse d'une heure avant MVP, qui est un magazine dont je suis très très fier. Deux fois par mois sur ma chaîne Twitch. MVP, ma vie pro, l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. Voilà, puis la nouvelle formule cette année marche bien, je suis content. Donc ça vous plaît. Tiens, j'ai une question à vous poser d'ailleurs à ce propos. Et après, on a refait un gros stream de revue de presse l'après-midi, de 3 heures, parce que je trouvais qu'une heure le matin, vu les actualités, Trump, le Proche-Orient, tout ça, ça méritait plus. Et le soir, on a fait un react question pour un champion. Voilà, mais ça, c'est sur Twitch. Par contre, la revue de presse, elle est de retour sur TikTok, j'ai tout réparé. Voilà. Ouais, j'avais une question à vous poser sur. J'ai fait trois reacts. Alors, c'est surtout les amis de Twitch, parce que ça, c'est un truc que je fais que sur Twitch. Merci Anonyme31 pour le 43e mois d'abonnement. Merci El Molusco. J'ai fait trois reacts de questions pour un champion. Hein? Le concept, enfin, le principe, le projet, ce que m'a proposé Fremantle, le producteur, c'est comme questions pour un champion est moins exposé, n'est plus diffusé que 2 jours par semaine, samedi, dimanche. Bah, t'as qu'à le faire en live, en React. Voilà. Donc, je l'ai fait 3 fois. Alors, bonne ambiance, on rigole bien, on apprend plein de trucs. Hein. Mais, on est sur Twitch, donc on se dit les choses. Je voulais votre avis là-dessus. Parce que vous n'êtes pas très nombreux. En fait, l'ambiance est super, on rigole comme des baleines. Vraiment, c'est hyper agréable. Pour vous comme pour moi, mais vous n'êtes pas très nombreux. Et donc, je me posais la question de savoir, on est là pour partager des trucs, et plus on est de fous, plus on rit. Si vous n'êtes pas très nombreux sur un truc, en général, moi, assez rapidement, bah, j'arrête le truc. Donc, est-ce que vous pensez que ça a du potentiel? Comment vous expliquez que finalement, on est moins nombreux sur ce React? Non, MMG, par rapport à la moyenne de mes streams. En fait, vous êtes vraiment beaucoup moins nombreux sur ces React questions pour un champion que sur tous mes autres streams. Revue de presse, gaming, MVP dont je parlais à l'instant, mais vraiment beaucoup moins, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas si je le poursuis ou pas. Faut faire de la pub. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas au courant. Ouais, mais enfin, en même temps. MVP, je ne fais pas plus de pub pour MVP. Mes revues de presse, je ne fais pas de pub. Mes stream gaming, je les annonce jamais. Enfin bon. Et tu vois, moi, je crois pas trop à la pub. Twitch, tu lances. Twitch, tu lances. Les gens ont une notif. Ils savent que tu es là en live non-stop. Tu vois, en fait, je trouve que la pub, ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. Ce serait top d'avoir les invités qui rectent avec toi ou des candidats. Ouais, mais c'est du boulot, ça. Ah, tu vois, Jeanne me dit, personnellement, je ne suis pas très consommatrice de live React. Donc, je zappe. Et je suis sur tous tes autres lives, en revanche. Tu vois, c'est intéressant, je trouve. C'est juste une question de public, me dit culotte courte. Stanley, ça m'intéresse que tu me dis culotte courte. Poum, je n'étais pas là, mais moi je regarde que le matin, donc je suis pas le bon exemple. T'as pas forcément un notif. Hein. Ouais, le notif, elle marche pas toujours, ouais. Agnès, team de soi, merci pour ton message, qui est trop gentil. Le créneau du React, à titre d'exemple d'hier, était en même temps que d'autres lives plus orientés gaming qui parlent peut-être plus à auditoire. Peut-être que c'est pas la bonne heure. Ouais, ouais. Alors si on fait pas ça le soir, on fait ça quand? Le matin, c'est la revue de presse. La revue de presse, on touche pas, c'est lundi, vendredi, point. C'est intéressant, on creuse un truc là. Jeubi me dit c'est le créneau qui convient pas à mon avis. Ok, à votre avis, quel serait le bon créneau? C'est hyper intéressant. Bonjour, en effet, je te préfère sur des streams natifs plutôt que sur du React. Je trouve que ça te correspond mieux, me dit Fabst, mais c'est juste mon avis perso. Ben justement, ton avis perso m'intéresse quoi. Non, je ne me suis pas fait ban au Linux de TikTok. C'est moi qui ai cassé toutes mes scènes avec des clics droits qui n'étaient pas OK, quoi. Salut Samir, j'irai voir si je retrouve ton mail. Je pense que le fait que ce soit question pour un champion réduit l'audience, dit PGT, tes autres contenus sont plus universels. Alors Clem, c'est l'inverse. Moi, j'aime trop ce format. Perso, je suis pas intéressé par les live gaming. Salut Sugar. Bonne réunion. Première fois que je vous regarde, vous proposez d'échanger sur quoi? Tu vas voir Béa, en fait, tous les jours le matin, ici, on parle de l'actualité nationale, internationale, avec une revue de presse, plein d'articles que je vous montre. On en parle pendant 3 heures. C'est peut-être un peu niche comme format, me dit Sutibu Photo. Le Ki 13 me dit, c'est intéressant, perso, les questions sont tellement difficiles que je ne suis pas attiré par le jeu, je viens surtout car j'aime le stream. J'adore. C'est vachement intéressant. Hein. En fait, ce qui est intéressant sur Twitch et sur TikTok ici, c'est l'échange que nous avons, parce qu'en fait, il y a rarement des questions qui restent sans réponse. Et là, vous m'apportez plein de réponses. Je pense que le soir, les gens, c'est plus gaming. Ouais. Tu es doux comme un abricot, me dit Calice, tu t'énerves par moment. Bien sûr, je m'énerve. La gentillesse n'est pas la faiblesse. Ah ! Yasmine me dit 18h comme la vraie émission. Pour le goûter à 17h, me dit Ophélie. Attends, on est peut-être sur une piste. Attends, est-ce que le React, ce serait pas plus pertinent à 17h, à 17h? Comme ça, revue de presse le matin, le React, ce serait le lundi en gros, à 17h, fin d'après-midi, et comme ça, on garde le gaming le soir. Moonboobs dit fin d'après-midi comme l'émission. Ça se teste. C'est intéressant. Je pense que la question est peut-être plus sur ton ressenti, si tu apprécies, même s'il y a moins de monde ou un public différent, ça vaut le coup de poursuivre. Alors moi, je me marre, Pandanario, mais il faut que ça ait du sens, quoi. Pas me marrer tout seul, quoi. Sony, je te mets le sommaire dans un instant. Sony veut savoir de quoi on va parler ce matin. Je te mets le sommaire dans un instant. C'était quoi la question? Tu te demandes Moumou Reine des Mouettes? Tout va bien, Moumou. Installe-toi tranquillement. Ouais, mais Max, c'est intéressant ce que tu dis. Max TNR. Salut à vous. Ouais. Ok, bah merci pour votre retour. Vous savez quoi? Moi, je vais tester. La prochaine fois, je testerai Question pour un champion, genre lundi, mais après-midi, 17h. Et on verra ce que ça donne. Et puis, moi, je suis un gars qui n'insiste pas. Un produit audiovisuel ou un produit sur Internet, c'est une rencontre entre une proposition. Par exemple, cette revue de presse, étrangement, il y a 5 ans, sur Twitch, elle a marché tout de suite. Je ne sais pas pourquoi. C'est un échec et un succès, en fait, c'est aussi difficile à expliquer. C'est tellement subjectif, ça dépend de tellement de choses. À un moment, il se passe une rencontre entre une proposition et l'accueil qui est fait à cette proposition. Bon, la revue de presse, on l'a lancée il y a 5 ans, ça a marché tout de suite, je ne sais pas pourquoi. Et j'aurais jamais pu dire avant que ça allait marcher, quoi. Quand je me suis lancé à faire du gaming, il y a plein de gens autour de moi qui m'ont dit mais reste sur ta revue de presse, espèce de vieux schnock. Des gens très sympas, hein. Ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu... Et finalement, ça a été très drôle et cette rencontre a été incroyable. Et cette rencontre, elle se fait ou elle se fait pas? Là, par exemple, j'ai l'impression que la rencontre se fait pas tout à fait entre le public de Twitch et le réac de questions pour un champion. Donc là, merci Bardino. Donc là, on va changer l'horaire pour voir. Et puis, si cette rencontre se fait pas, eh ben, il faudra faire d'autres propositions parce que dans une journée donnée, je peux faire X nombre d'heures de stream, mais pas plus. Je suis limité par mon besoin de sommeil, le fait que j'ai envie de passer du temps avec ma famille, tout ça. Et donc, comme j'ai plein d'autres envies et plein d'autres idées, on fera autre chose, quoi. Ouais. Super. Bah, merci pour vos retours. Vous êtes cool. Bon, et vous, ça va? Merci, Massis, c'est ça? Massis TV. Merci, Anonyme 31. 43, mon nom de Dieu. Merci, El Molusco, de nouveau. Le petit Samemu qui rentre vraiment dans le stream game et ses galères. Ouais, ça fait juste 5 ans que je stream, Fukuma, mais merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Bon, les amis. Bon, vous la vie, sinon. Le travail, les amours, la santé. Bien. Il fait gris, ouais, je sais, ouais. Gris et froid, non? Il est un peu moche, hein. Il y a des endroits où il fait beau, là, en France, actuellement. Oh, l'inox, l'amour, la santé, ça roule. Ça va bien, me dit alors, ok. Fin de saison, ici en Bretagne, ciel bleu. Comment ça, en Bretagne, ciel bleu? Moi, je vais en Bretagne ce week-end, là. J'ai vu les prévisions, c'est pas fou, hein. Cotane, rien ne va, mais bon, on s'habitue. Éric Durand, force. Alors, Chloé... C'est la troisième ou quatrième fois que tu écris « Hey, tu penses quoi de l'article de Marianne qui parle des jeunes filles ?» Alors, je ne te réponds pas, non pas parce que je n'ai pas lu ton message que tu as écrit à peu près 4 ou 5 fois, je pense. Je ne lis pas Marianne, je lis la presse quotidienne nationale. Marianne n'est pas un quotidien parce que je n'ai pas le temps de tout lire. Et alors, l'article de Marianne qui parle des jeunes filles, alors, pour le coup, excuse-moi, mais c'est un tout petit peu flou. Est-ce que tu peux me préciser quelle jeune fille, quel est le thème de l'article, quel est l'angle de l'article, tu vois, pour le coup, je ne sais pas de quoi tu parles, donc je ne te réponds pas parce que je t'ignore, je ne te réponds pas parce que je ne comprends pas de quoi tu me parles. Neige dans le 66, ok. Ah ben Chloé, moi je... Sorry, c'était pas pour pas être noyé dans les commentaires. En fait, moi je ne sais rien faire de bien, mais je lis très très vite. Donc sachez que la plupart de vos messages, je les vois. Donc Chloé, j'ai vu à peu près 4 ou 5 fois ton message. Même Ajaccio, il fait pas beau? Périgord, ciel bleu? Soleil à Dunkerque, foutez de ma gueule ou quoi? Ouais, West Coast, j'entends ce que tu me dis. Déménagement pour Adrock Gamer. Pop, 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 pop. Ça vient à Lyon? Ok. Mais moi aussi, Mevla, je t'aime. Ici au Japon, il fait beau? Salut, Toinos. Lille, c'est sombre? Ah, ça déménage du côté de Hydre-Mercure aussi. Vous savez qu'il y a des études psychologiques sur le déménagement? Et qui explique qu'en fait le déménagement on ne se rend pas compte, mais c'est un choc psychologique beaucoup plus important qu'on ne croit. Alors certains le vivent plus ou moins bien, mais ça n'est pas rien. Donc si vous le gérez de façon un petit peu c'est un peu compliqué, c'est normal en fait. C'est normal, vous n'êtes pas seul, quoi. Non, non. Il y a plein de gens qui me disent, mais t'as vu machin avec Bruce Toussaint? T'as vu machin chez Quotidien? Alors, je suis désolé, hein, je ne peux pas répondre à vos questions, je ne regarde pas la télé, moi. Alors, c'est pas parce que j'en fais et que j'en ai fait beaucoup. Une journée, c'est à 24 heures. Moi, mes priorités, c'est la famille, un peu de sommeil, Twitch, et tout ce qui part de Twitch, TikTok, YouTube, Insta, les podcasts, voilà, l'actu, le gaming, je ne regarde jamais la télé. Donc, ouais, t'as vu Bruce Toussaint qui a interrompu. Ouais, t'as vu Quotidien. Non, je ne regarde jamais la télé. Valo, bien sûr. Ah, un article qui parlait des jeunes filles sur TikTok. C'est intéressant. Alors, ça, on parle beaucoup de la relation entre les jeunes et les réseaux sociaux et des éventuels dangers des réseaux sociaux et d'Internet vers les plus jeunes. Ça, c'est un sujet dont on parle très souvent. Ok. Bah, comme le dit Wabedou, il faut sélectionner les choses dans ce monde ultra connecté, sinon on ne s'en sort pas. Voilà. Moi, je m'informe par exemple en lisant les quotidiens nationaux. Hein, je vous les montre, hein, ces quotidiens. Quand je dis quotidiens nationaux, faut à un moment dire de quoi tu parles, papy. Donc, hop. Voilà, c'est celui-là. Je vous les montre, c'était sur TikTok aussi. C'est celui-là. Donc, moi, tous les matins, c'est mon plaisir. Je lis Le Monde, Le Parisien, Libération, Le Figaro, La Croix, L'Humanité, L'Opinion, Les Échos et L'Équipe. Pour l'exclamation RDP dans le chat Twitch, je pourrais lire la presse magazine, je pourrais lire la presse régionale, je pourrais lire la presse internationale. Il y a aussi d'excellents médias de presse écrite dans ces univers. Mais je ne peux pas, c'est un manque de temps. Donc j'ai choisi de lire ces journaux parce que j'aime bien les lire. Du coup, je n'ai pas le temps d'écouter la radio. T'as déjà tout lu ce matin? Ah bah oui, c'est le principe. Quand je viens vous voir, j'ai tout lu. Et du coup, le temps que je passe, en gros, je mets 2 heures à lire ces journaux, quoi, vite fait. Et le temps que je passe là, bah, vous l'avez compris, je ne le passe pas sur la télé ou sur Internet ou sur d'autres sources d'informations comme la radio, quoi. Donc ça, c'est... On parlait de choix à l'instant dans un monde ultra connecté. Moi, j'ai fait ce choix, par exemple. Voilà. Donc... Merci Sarbrock. Merci Kiki Plan. Voilà. Mais c'est un choix. Après, on peut très bien s'informer aussi en choisissant de bonnes sources d'informations sur Internet. On peut aussi très bien s'informer en choisissant de bonnes sources d'informations à la télé. On peut aussi très bien s'informer en n'écoutant que la radio. Vous voyez, c'est l'important, c'est pas tellement le support, c'est pas tellement le tuyau. Hein, l'important, c'est la qualité de la source. Voilà. Et de varier ses sources aussi. Et Mabilol dit, on a le droit de pas s'informer aussi, bien sûr. Moi, je pense que c'est bien de s'informer pour comprendre le monde dans lequel tu vis, quoi. Mais vous voyez, bon, moi, j'ai fait ce choix parce que je ne sais pas pourquoi. J'adore lire, moi, c'est mon kiff. J'adore lire des mots. Voilà. Donc, j'ai aucun mérite. Depuis tout petit, j'adore lire. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait de l'audiovisuel parce que je suis plus à l'aise dans l'audiovisuel. J'aime bien parler et raconter des histoires en télé, en radio ou ici sur Internet. Mais mon plaisir de consommateur d'actu, c'est un plaisir de lecteur, quoi. Voilà. Mais d'où cette revue de presse. Tu passes combien de temps le matin et la journée? Bon, 2 heures en gros. 2 heures. Donc l'adage qui dit « Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es » est finalement vrai. Ouais, enfin moi je lis tout. Donc, je lis des journaux communistes, socialistes, de gauche, de droite, conservateurs, libéraux, proches des valeurs chrétiennes. Tu vois, je lis un peu de tout, quoi. Donc je ne me définis pas par ce que je lis, comme à peu près tout m'intéresse. En tout cas, le choix éditorial que j'ai fait, c'est de lire la presse quotidienne national. Voilà. Tu es un peu notre père Castor. Bon, les amis, moi j'ai été assez bavard là. Et si on lançait cette revue de presse justement, hein, j'aime bien la définir aussi pour ça, que vous sachiez à quoi vous attendre. Voilà. Et donc, c'est parti. On en parle sur TikTok avec une nouvelle mise en page. J'espère que vous l'appréciez. Vous avez vu sur TikTok, j'ai mis. Regardez, je vous montre tout. J'ai mis. Le sommaire désormais en haut à gauche, en blanc sur fond noir. J'ai mis les journaux juste en dessous, voilà, pour que le chat soit un peu dessous. Il est un peu coupé. Non, il n'est pas coupé. Normalement, non. Vous avez les titres, là? Et le chat dessous pour que... Ah, il est coupé? Voir. Décale un peu vers la droite. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque? C'est les titres? Clément? Est-ce que vous voulez que je décale un tout petit peu les titres vers la droite? Ok. Ok, let's go. Et hop, vous me dites. Non, non, mais c'est important. Est-ce que c'est mieux là? Là, c'est nickel? C'est parfait? Encore? Pas assez? Attends, mais attends, c'est un problème de téléphone, parce que pour certains, c'est parfait. Encore un peu? Bon, ce que je vais faire, c'est je vais le réduire et je vais le décaler. Ça dépend des écrans. Ah, ok. Ah, putain, alors ça, maintenant, c'est Samsung, iPhone. Il faut que je fasse une mise en page pour chaque marque. Bon, est-ce que c'est mieux là? Il y a quelqu'un sur Twitch qui dit, oui, c'est parfait. Non, non, je change rien sur Twitch, là, je change sur TikTok. Je vous kiffe. Encore? Ah ouais, mais attends, mais c'est quoi vos téléphones? C'est les Nokia 3310? Attendez. Hein? C'est quoi vos téléphones? Bon, on est bon là? Allez, c'est ouvert là comme ça? Allez, let's go. Ok, donc je freeze. Hop, je bloque la scène. Donc, sur TikTok, du changement. Je vous ai mis les titres en haut à gauche. Je vous ai mis les articles dessous. Hein, et ma tête un peu à droite. Et le chat dessous. Ok? Voilà. Comme ça, c'est un peu plus propre avant, parce qu'avant, on mettait les articles avec le chat par-dessus, blanc sur blanc, vous lisiez plus rien. J'ai mis les titres, ça c'est nouveau, en haut à gauche, blanc sur fond noir. Normalement, c'est OK, quoi. OK? Voilà. Et puis sur Twitch, bah, sur Twitch, c'est parfait, parce que ça a toujours été parfait. Voilà. La nouveauté depuis quelques jours, c'est qu'on fait le sommaire. Comme ça, vous savez exactement où on en est. Hein? Ouais. Où on en est, bah, régulièrement depuis 5 ans, et j'ai mis un temps fou à comprendre ce qu'il fallait faire. J'avais des gens qui arrivaient, ah bah tu parles pas du Proche-Orient aujourd'hui, alors qu'on venait d'en parler pendant 1 heure, ou qu'on allait en parler pendant 1 heure, quoi. Donc c'était épuisant pour moi, les modérateurs, de dire, mais t'inquiète, il en a parlé, ou il va en parler, et tout. Ah, il parle jamais du Proche-Orient! On n'en pouvait plus. Voilà, et donc du coup, on a fait ce sommaire pour que vous sachiez tous les jours de quoi on va parler. Let's go! Pour le sommaire, justement, et donc, qui commence à 29 minutes de stream, je vais le mettre pour le replay en podcast. Ok, let's go. Voilà. C'est parti. Donc, par quoi on va commencer ce matin? On en a déjà parlé un petit peu hier, mais on va y revenir. Bougez pas. On va y revenir. Trump. Trump devant l'ONU. Parce que on a eu plusieurs articles qui en ont parlé, voilà, avec un discours assez agressif pour beaucoup de pays à travers le monde. Et le monde y revient. Le monde souvent revient sur les actus avec un décalage, léger décalage, voire avec une légère avance. Pourquoi? Parce que en fait, le Monde est un journal qui historiquement sortait le soir. On parlait d'un journal du soir. Et maintenant sort en début d'après-midi, alors que les autres quotidiens sortent le matin. Donc il a forcément un décalage. Ou un petit peu en avance ou un petit peu en retard. Et là, le Monde revient sur le discours de Trump. Il n'avait pas pu, dans son édition PDF précédente, en parler, puisque, en raison de l'horaire de la déclaration. À l'ONU, ce qui me permet d'y revenir, la charge tous azimuts de Trump, l'Américain a fustigé les Nations Unies, les politiques migratoires et climatiques de l'UE, on va en reparler, faisant volte-face. Alors, on n'en avait pas parlé hier, et ça me semble pourtant important. Faisant volte-face, il a assuré mardi que l'Ukraine pouvait gagner la guerre. Pour ceux qui suivent le conflit ukrainien, c'est une déclaration qui est assez incroyable. Alors, après, est-ce que Trump est quelqu'un qui parle, qui parle, qui parle, qui parle? Parole, parole, que je chantais Dalida, et puis il se passe rien. Est-ce que c'est un beau parleur? Est-ce que cette déclaration peut être suivie des faits? Lesquels? On verra. Et puis on parlera aussi de la taxe Zucman au début. Hein, donc on commencera même par ça, vous l'avez vu. La taxe Zucman, bête noire des possédants, avec les possédants, ceux qui ont et ceux qui ont beaucoup, et puis une partie du paysage politique français plutôt à droite qui se mobilise pour dire non, la taxe Zucman, c'est une dinguerie. Voilà. Donc on parlera de ça, parce que finalement Trump, on en parlera après. On parlera des réactions des entrepreneurs, des startups français aussi sur cette taxe Zucman. Et puis on parlera du fait que ce débat sur le fait de taxer les milliardaires, on n'en parle pas qu'en France, on en parle aussi dans d'autres pays. Tout ça, c'est dans Le Monde. Le Figaro se penche aussi sur la question fiscale des impôts et estime que c'est peut-être pas une taxe Zucman qui va arriver à la faveur d'un rapprochement entre le cornu, le nouveau Premier ministre, et les socialistes, mais c'est peut-être le retour de l'ISF. Quel ISF ? Est-ce que c'est un ISF qui va parler, qui ne va toucher que les ultra-riches ou les riches d'une façon générale, comme l'ancien ISF ? Alors Le Figaro se penche sur cette question, le retour de l'ISF, au cœur d'un hypothétique compromis entre le cornu et le PS. Et puis, un petit éclairage dans Le Parisien, parce que, y a une nouveauté en matière de déclaration d'impôt, là, avec ce titre un peu intriguant. Messieurs, le montant net de votre fiche de paie, PAE, risque de baisser. Pourquoi ? En fait, le truc qui était coché à la base, de base, quand vous faites votre déclaration d'impôt et que vous êtes en couple, c'est un taux moyen. Un taux moyen pondéré entre vos deux taux d'imposition selon vos revenus dans le couple. Voilà. Maintenant, la nouvelle règle, en fait, c'est un taux individualisé que vous pouviez déjà, choisir avant, mais il fallait le choisir. Voilà. Et désormais, le taux individualisé est la norme, alors qu'avant, il fallait le demander, enfin le cocher. Voilà. Moi, je suis en taux individualisé avec mon épouse depuis que c'est possible. Donc, ça ne va rien changer pour moi. Mais pour ceux qui étaient en taux commun, donc, ce qui permettait à celui dans le couple qui gagnait le plus d'avoir un taux plus faible, mais qui faisait que celui qui avait le plus petit salaire dans le couple avait un taux d'impôt plus important normalement qu'il aurait dû avoir, ça c'est terminé. Ce qui est automatique maintenant, c'est le taux individuel, que vous pouvez aussi changer pour revenir au taux commun. Voilà, je vous expliquerai tout ça, c'est assez intéressant. Voilà, ceux qui sont déjà en taux individualisé, en couple, ça ne change rien. Ceux qui sont tout seuls, ça ne change rien. Ceux qui font deux déclarations séparées, ça ne change rien. Voilà. De toute façon, au final, vous payez la même somme, hein, en couple. Ok ? Pour ceux qui ont compris, que vous fassiez le choix d'un calcul du taux d'impôt de retenue sur votre salaire, en gros, pour les salariés, individualisé ou commun, au final, ce que vous payez, ce que le ménage paye, c'est la même somme. Sinon, ce serait le bordel, quoi. Je vous raconterai tout ça. C'est pas grand-chose, mais c'est pas inintéressant. Peut-être que certains se poseront la question. Mais je l'ai mis où l'article sur Trump ? Il vient après ? Ah oui, j'ai eu peur. Ouais, il vient après. On va parler de Nicolas Sarkozy aussi ce matin. Encore un procès. Il y en a qui collectionnent les cartes Pokémon, il y en a qui collectionnent les procès, les condamnations. L'ancien président, à l'heure du jugement, c'est un article dans Le Parisien, une lourde peine de 7 ans de prison, boy, est requise à l'encontre de l'ancien président dans le dossier, cette fois, du financement. Du présumé financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007 qu'il avait perdu d'ailleurs. Voilà, la décision doit tomber aujourd'hui. Voilà. Et du coup, moi je me suis dit, alors, ok, c'est un nouveau procès, peut-être nouvelle condamnation, mais alors, on en est où dans ces condamnations ? Merci Libération, voilà. Affaire Bismuth, Big Malion, des casseroles en cascade, déjà sous bracelet électronique. Ah ouais, il est toujours sous bracelet là ? Après sa condamnation dans le dossier des écoutes dites Bismuth et dans l'attente d'une décision pour l'affaire Big Malion, il a encore en bracelet là ? L'ancien président pourrait voir son fardeau judiciaire s'alourdir encore ce jeudi. Plus maintenant ? On lui a enlevé ? D'accord, ok. On lui a enlevé le bracelet au motif de son âge avancé. Bon, eh ben on va peut-être lui en remettre un. On va peut-être lui en remettre un. Voilà. Là. Voilà, certains collectionnent les cartes Pokémon, certains collectionnent les bracelets. Alors c'est une toute petite info qui a très peu de place dans les journaux ce matin, même dans Libération c'est un petit article, mais moi je trouve ça important. Donc ça c'est un choix éditorial, moi je vous en parle parce que je trouve ça important. Est-ce que vous vous rappelez de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques avec cette scène notamment avec Philippe Catherine, qui avait provoqué beaucoup de débats, de colère de certains et tout. Et il y avait une DJ qui s'appelle Barbara Butch, qui avait été la cible après cette cérémonie d'une très violente campagne de cyberharcèlement. Voilà. Et donc cette femme, cette artiste, cette DJ, elle avait reçu beaucoup de messages extrêmement agressifs, extrêmement violents. Voilà. Essentiellement. Voilà. Alors, exemple, hein. Menace de mort. Hein. Menace de mort. Menace de viol. Message à caractère grossophobe. Lesbophobe et antisémite. Ouais. Alors, donc c'est. Bah, ça prend très peu de place dans la presse ce matin, mais moi je vais en parler puisque le procès des gars qui ont fait ça arrive. Voilà, ils sont combien ? Ils sont 5. 5 de ces cyberharceleurs présumés jugés aujourd'hui. On dit Butch ? On dit Butch ? On dit pas Butch ? Ah, merci. On dit Butch ? On dit Butch ? Corrigez-moi quand je prononce mal. Voilà. 5 de ces cyberharceleurs présumés sont jugés aujourd'hui par la justice française. Tous des hommes. Quelle surprise. Âgés entre 24 et 57 ans. Voilà. Donc on lira ce petit papier. On dit Butch ? Vous pouvez me confirmer la prononciation, les chouchous ? 5 sur des centaines. Ah bah oui, t'imagines bien, c'est que 5 sur plein. Mais peut-être que ceux-ci ont été sélectionnés pour le caractère particulièrement violent de leurs propos, quoi. On dit Butch. Ok. Elle m'a dit Butch de là, Régis, je valide cette blague. Ok. Donc on parlera de ça. Et puis donc, je vous le disais, on va parler de Trump de nouveau avec cet article du Monde qui nous permet de revenir sur ce qu'a dit Trump à la tribune de l'ONU. Voilà. Quand il peste pas contre l'escalator en panne et le prompteur qui marche pas. Et surtout sur sa déclaration sur l'Ukraine. Parce que si elle est suivie des faits, alors pas toujours avec Trump, mais si elle est suivie des faits, sa déclaration sur l'Ukraine, c'est vraiment un game changer. Voilà. Il est en train de changer son ton vis-à-vis de la Russie. Qu'est-ce qui va se passer après ? C'est la question, quoi. Et puis, des articles un petit peu plus légers sur, par exemple, pourquoi les politiques se mettent au podcast. Il y a de plus en plus de politiques, de personnalités politiques en France qui acceptent des invitations à participer à des podcasts pour se livrer un peu différemment, quoi. Ce sera l'occasion d'échanger sur les podcasts parce que de plus en plus, les podcasts, ils sont pour moi, un podcast, à l'origine, c'est audio, mais de plus en plus, ils sont vidéo. Alors, moi, j'ai un problème de mon cerveau de vieux, il bug. Un podcast vidéo, est-ce que c'est encore un podcast ? Moi, j'ai un souci avec ça. Tu vois ? Podcast live ? Ben, je sais pas. Ben, là, on est en live sur Twitch. Mais sur TikTok, c'est pas un podcast ? Podcast, c'est pas live. D'ailleurs, podcast, c'est pas un live, c'est une vidéo d'ailleurs. C'est quoi ? C'est une interview, quoi. Ah, Kazeline dit, pour moi, un podcast, c'est audio, c'est pas une vidéo. Bah ouais. Nico dit, un podcast, c'est un instrument audio. Voilà. Et là, par exemple, vous verrez que dans ces podcasts, en fait, c'est des interviews vidéo. Alors, qui peuvent être diffusées en audio aussi. Hein. Ouais. Du coup, je comprends rien. C'est des vidéos disponibles en podcast. Ah, il y a Raya qui me dit avant, les premières vidéos YouTube, genre Cyprien, on les appelait les podcasts. Ok. Tu mets bien la matinée en Étienne en podcast. Ouais, mais audio. Ok. Bon, peu importe. C'était un truc sémantique, mais je me posais une question. Ouais, c'est amical, on est en podcast. Audio, sur toutes les plateformes de podcast. Audio. Deezer, Spotify, tout ça. Par abus de langage, on appelle podcast des vidéos pensées pour pouvoir être écoutées en podcast. Right. David, on en a parlé littéralement pendant 1 à 2 heures hier de ça. Tu l'as en replay. Voilà. Et puis, un petit peu d'actualité jeux vidéo. Voilà. Avec un article dans Les Échos qui est un des journaux qui s'intéresse le plus. Les Échos, c'est un journal qui se penche sur l'actualité économique. Les Échos se penchent sur le report du jeu star tant attendu GTA 6 qui profite à ses concurrents. Voilà. Entre Call of Duty, Black Ops 7, Borderlands 4, et le traditionnel opus de DS Sports FC, la fin d'année sera riche en sorties. De quoi garnir la hotte de Noël avant le très attendu GTA 6 prévu l'an prochain. Petit article dans les échos là-dessus. C'est encore retardé GTA 6 ? C'était prévu pour fin 2025, désormais attendu au 26 mai 2026. Attendez. Ça a été de nouveau repoussé ou c'était déjà le report d'avant ? Non, c'était prévu ça. Il a été retardé une fois, ouais. C'est la date qui était annoncée, ouais, c'est ça. Ouais. Ça n'a pas changé, ça. D'accord. Ouais, ouais, on est d'accord. Oui, c'était le report d'avant. Ok, merci. Voilà. Bon, du coup, les échos font quand même un point pour dire, bah, du coup, ça fait de la place pour les autres jeux, quoi. Ok. Ah, c'est intéressant. Bon, bah vas-y. Bah, voilà, les amis, pour le sommaire, on va pouvoir attaquer là maintenant. Hein, 41 minutes, on s'est dit bonjour. Voilà, je vous ai dit le sommaire, on est sur un bon rythme. Voilà. Et là, on va y aller. Moi qui croyais que jeux vidéo, on allait parler de la sortie de Hades 2 aujourd'hui. Oh, je pense que l'article va en parler. Et puis si l'article n'en parle pas, on ira chercher des infos sur Hades 2. C'est Zera, je crois, qui aime beaucoup Hades 2. Il m'a dit, c'est vraiment... On parlait avec Adrien récemment, il m'a dit, putain, c'est vraiment mon jeu, quoi. Il y a un monde où il joue ce soir, d'ailleurs. Hein. Il a peut-être déjà joué, d'ailleurs. Hein. Bal, peut-on parler de 2 minutes de l'avenir de Question pour un champion, s'il te plaît, Étienne ? Non. Alors non, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, puis on va passer à autre chose maintenant. Hein, ici, on regarde devant. Je n'aime pas trop regarder dans le rétro, moi. Zerator, Mister MV, AlphaCast, ok. Nevaï me dit, Hades a été absolument révolutionnaire, donc le 2 est très attendu. Ok, bon, on ira voir ça. Ok. Baptiste, bonjour Samuel, déjà sous coca à 10h30 du matin. Ouais, ouais, un petit problème de manque de sommeil ici. Ok, let's go. Alors, déjà, on va actualiser le TC. On a 43 minutes de début de stream. Et donc, on attaque sur d'abord la fiscalité, la taxe Zuckman, mais aussi l'ISF, tout ça, le débat en France. Est-ce qu'il faut augmenter les impôts, la fiscalité, notamment pour les riches ? Alors, est-ce qu'on parle des ultra-riches ou juste les riches ? Il y a des petites subtilités. Je trouve ça assez intéressant. On y va. Taxe Zuckman, les milieux d'affaires se mobilisent. Bon, c'est Le Monde qui nous en parle. La proposition de l'économiste Gabriel Zuckman d'une taxe annuelle de 2% sur les patrimoines dépassant 100 millions d'euros alarme les possédants. Et c'est grâce à vous d'ailleurs que je permets de préciser ça. C'est 2% pour ceux qui ne payent pas déjà 2%. Voilà. Ok ? Voilà. Et la différence... S'ils payent 1%, eh ben, ils payent en plus pour 2%. 2%, alors il y a un avis qui dit c'est tellement rien 2%, 2% du patrimoine, hein, pas 2% des revenus. J'espère que tu connais un petit peu ce débat. C'est 2% de l'intégralité de leur fortune tous les ans. Voilà. Alors certains disent dans le chat c'est rien. Alors les milliardaires concernés, on parle de 1800 familles en France, hein, c'est très peu de gens, à partir de 100 millions d'euros de patrimoine, eux ils disent non, c'est trop. Voilà, c'est ça le débat. Le patronat annonce un énorme meeting contre cette forme de spoliation. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup d'ironie, hein, vous le savez. Un énorme meeting du patronat, pardon, hein, c'est combien de personnes ? 10 ? Non, mais je ne veux pas être ironique, mais 3, 25, hein, une petite salle des fêtes, peut-être. Bon, des manifs de patrons en France, et surtout de gros patrons en France, on n'en a pas vu beaucoup, quoi. Mais c'est marrant. En tout cas, ce n'est pas le genre de type. C'est pas le type d'action auquel le MEDEF nous a habitués, quoi. C'est pour ça que je me pose la question. J'ouvre le débat. Hein. Bande de salopards, on n'est que deux. Donc, le patronat annonce un énorme meeting. Alors, moi, je suis très intéressé par ça. Je voudrais savoir ce que c'est un énorme meeting du patronat. Contre cette forme de spoliation, et Bernard Arnault avertit qu'elle va mettre à terre l'économie. Alors, le patron de LVMH. Sur fond d'inquiétude sur la dette, la taxe Zuckman a gagné, elle, la bataille de l'opinion. Parce que quand vous posez la question aux Français, quand vous faites des sondages, Est-ce que vous voulez une taxe Zucman? Ben, les résultats, c'est 70-80% des Français qui disent oui. Et le Premier ministre, Sébastien Lecornu, doit donner des gages au PS. Parce que Sébastien Lecornu, c'est un Premier ministre nouvellement nommé qui doit former son gouvernement, qui doit essayer de construire un budget, qui doit présenter un programme de gouvernement. Pour ça, il ne faut pas qu'il soit dégagé par l'Assemblée. Donc, il faut qu'il trouve des députés pour le soutenir. La traîne du moment, c'est que le camp macroniste a besoin de la gauche, notamment des socialistes, pour rester un petit peu au pouvoir. Les socialistes disent « Ok, mais il va falloir faire des petits efforts sur la fiscalité. » S'estimant injustement pris pour cible, patron et grande fortune espèrent encore enterrer le projet ou le remplacer par un succès d'année acceptable. Le débat sur la taxation des milliardaires n'est pas cantonné qu'à la France. On va sortir un petit peu de notre côté nombriliste. Merci Anto Conseil pour ce raid adorable. Merci Ball pour le Prime. Merci Macaron pour le soutien. Merci encore Starbrock. Merci Alan. Merci à toi. On en parle aussi en Allemagne. On en parle aussi au Royaume-Uni. On en parle aussi au Brésil. Alors lisons cet article du Monde, puisqu'on est là ici pour comprendre un peu les choses avec un maximum d'infos. La taxe Zucman, bête noire des possédants, de ceux qui ont. Surtout ceux qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Je ne sais pas si vous êtes très nombreux dans le chat à avoir 100 millions d'euros de patrimoine. Si oui, félicitations, profitez. En pleine tractation autour du budget de l'État, l'idée d'une taxe sur le patrimoine des ultra-riches, il faut distinguer les riches et les ultra-riches, suscite la crainte et l'indignation des premiers concernés. Un énorme meeting du patronat dans quelques jours. J'adore ce concept. Moi, je veux voir ça. Je regarde jamais la télé. Je regarderai ma télé s'il y a une manif des patrons. Depuis quand les chefs d'entreprise n'avaient pas lancé une opération comme celle annoncée mardi par Patrick Martin, le président du MEDEF? Peut-être depuis le 14 décembre 1982. C'est il y a longtemps. Lorsqu'Yvon Gattaz, alors patron des patrons, avait réuni 20 000 dirigeants à Villepinte pour contester la politique de François Mitterrand. 20 000, en vrai, c'est pas mal. Sifflets, pétards, mégaphones, les patrons n'ont pas l'habitude de reprendre les modes de protestation des syndicats. Il y a Oubiane qui rigole dans le chat, les patrons qui vont bloquer le 16e. C'est dire si à leurs yeux l'heure est grave. Nous devons revendiquer notre contribution essentielle au bien public alors que circulent frénétiquement avec un niveau de décibels extrêmement élevé pour la fausse liaison, certaines théories dangereuses pour nos entreprises, a affirmé mardi Patrick Martin. La menace porte un nom. Zucman. La nouvelle bête noire des possédants, celle qui les fait frissonner. Depuis la chute du gouvernement Bayrou, le 8 septembre, l'idée proposée par l'économiste Gabriel Zucman, qui est un Français, dépassant donc d'une taxe annuelle de 2% sur les patrimoines, sur l'intégralité du patrimoine tous les ans, dépassant 100 millions d'euros, domine les nouvelles discussions budgétaires. On en a parlé déjà pendant des heures, vous avez tout ça en replay si ça vous intéresse. Et provoque une spectaculaire levée de boucliers bien au-delà des 1800 ultra-riches qui devraient la quitter. On parle de très, très, très peu de personnes. Patrick Martin l'a prise pour cible numéro 1. Moi, je ne sais pas danser la Zucmania, a-t-il lancé. Et je n'ai pas l'intention de m'y adonner. Déterminé à bloquer la taxe de Zucman, une forme de spoliation selon lui. Cette taxe va tuer les entreprises de taille intermédiaire, s'écrit aussi le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, l'organisation qui la représente. Elle serait suicidaire pour notre économie, dit la Confédération des petites et moyennes entreprises. C'est marrant parce qu'eux ne sont pas concernés, a priori. Mais bon. Oui, bah c'est une espèce de blague. T'es beau Samuel, mais danser la Zucmania n'est pas ton fort. Bah, j'aimerais bien voir Patrick Martin danser la Zucmania, moi. Bah, il a dit qu'il ne voulait pas. Quant à l'Association française des entreprises privées, elle va tenir aujourd'hui. Ah non, elle a tenu hier sa première conférence de presse depuis des années pour parler justement de fiscalité. Même Bernard Arnault, le patron de LVMH, qui est en général plutôt discret, est sorti de sa réserve habituelle. Merci Chloé. Cette taxe qui le vise en premier lieu relève d'une volonté clairement formulée de mettre à terre, pas Bernard Arnault, dit Bernard, mais l'économie française, a-t-il lâché le 20 septembre, en mettant en cause la pseudo-compétence universitaire de l'instigateur de celle-ci, qualifié de militant d'extrême-gauche. Il s'est attaqué nommément à M. Zucman. Zucman qui a répondu « La fébrilité n'autorise pas la calomnie. Est-ce que, demande le monde, les patrons et les très riches particuliers sont fébriles aujourd'hui en France ? La virulence de leurs propos contraste avec les réactions modérées enregistrées précédemment. En septembre 2024, Patrick Martin, nous sommes prêts à discuter d'une hausse d'impôts. Michel Barnier avait lui-même commencé, quand il était au gouvernement, parce que le gouvernement ne reste pas très longtemps en ce moment, commencé à préparer un budget en ce sens. Voilà. Pas de hurlement non plus en février, lorsque la taxe Zucman avait été adoptée par l'Assemblée. Voilà. Ensuite rejetée par le Sénat. Pourquoi ? À l'époque, on savait que cette taxe n'avait aucune chance d'aboutir, explique un gestionnaire de fortune. Voilà. Effectivement, il y a eu le rejet par le Sénat. Mais, et c'est pour ça qu'il y a crispation, cette fois, je sens, dit-il, une vraie crainte parmi mes clients, car cette mesure assez mortifère, dit ce gestionnaire de fortune, peut se concrétiser. Eh, je ne vous ai pas mis la flèche, là, vous ne me dites rien. Dans le sommaire, là. Mais vous ne me dites rien. Oui, mais vous ne me dites rien aussi. J'ai pas mis la flèche, là, pour vous dire où on en est. Ah bah oui, vous ne me dites rien. Attends, je vous mets sur TikTok aussi. Ouais, mais je ne vous ai pas mis la flèche. Oh, c'est fou, ça. Vous me dites rien. Je vous la mets, la flèche. Pour vous dire où on en est, quoi. Voilà. Voilà, c'est propre. C'est pour voir si tu suivais. Ben oui, je suis. Depuis quelques semaines, dit-il, je vois une angoisse monter chez les personnes qui pourraient être concernées et celles qui se disent « les 100 millions d'euros, j'y serai peut-être un jour ». Nom de Dieu, j'aimerais bien, je pense que beaucoup dans ce chat aimeraient bien aussi pouvoir se dire « ah ouais, mais là je ne vais pas le payer, mais un jour je vais peut-être le payer parce que j'aurai 100 millions d'euros ». Je pense que Poupito de Berlin est sans doute ivre. Alors Jojo dit gênant, moi je pense que c'est peut-être un petit apéritif trop tôt, à moins qu'en raison du décalage horaire, tu sois le soir. Voilà. Alors on va laisser Poupito cuver, on va pas le ban, on va juste lui demander de revenir demain. On appelle ça une cellule de dégrisement. C'est ce que les policiers, les gendarmes appellent une cellule de dégrisement, je connais bien. Voilà, donc t'inquiète pas, allonge-toi, hydrate-toi surtout, parce que sinon l'alcool en fait ça déshydrate. Tu vas avoir mal à la tête, hydrate-toi, ne sors pas, tu vas te mettre en danger, repose-toi et reviens demain. Voilà. Je trouve ça fascinant de pouvoir se dire, ah, putain, mais je vais peut-être le payer dans quelques années, moi, je vais peut-être avoir 100 millions d'euros de patrimoine. Waouh ! La taxe Zucman est le sujet numéro un sur lequel nous interrogent nos clients. Voilà. Même constat chez sa consoeur Xenia Legendre. Mes clients sont en colère, exaspérés, ils prennent cette menace au sérieux. C'est quoi le patrimoine, me demande quelqu'un dans le chat. Bah, le patrimoine, c'est l'intégralité de tes biens. C'est la somme de tes propriétés immobilières, la somme de de ce que tu as sur tes comptes, la somme de tes placements financiers, la somme des actions que tu détiens en entreprise. C'est tout ce que tu as, le patrimoine. À ne pas confondre avec le revenu. Le revenu, c'est ce que te rapporte ton travail tous les mois et ce que peut te rapporter ton patrimoine, par exemple, en placement et en intérêt, tous les mois, tous les ans. Oui, les bijoux, tout ça, ouais. Voilà. Et notamment, la valorisation d'une entreprise, qu'elle soit en action ou pas, et c'est là où certains gros patrons ne sont pas d'accord, quoi. Hein. Pas l'outil de travail, contrairement à la propagande actuelle. Alors, le Batman breton, désolé, mais pour le coup, la propagande actuelle a raison, la taxe Zucman, elle est calculée également sur ce que tu appelles l'outil de travail, c'est-à-dire la valeur d'une entreprise. Là, pour le coup, il faut lire un petit peu les journaux, c'est ce qu'on essaie de faire ici. Bienvenue. C'est que l'équation politico-économique paraît assez implacable. D'une part, la France est confrontée à un problème financier criant, il n'y a plus de sous, hein. Il n'y a plus de sous, la dette est gigantesque, la charge de la dette est incroyable, symbolisée par la dégradation de sa note par l'agence Fitch le 12 septembre. D'autre part, les baisses de dépenses publiques ont du mal à passer politiquement, comme l'a prouvé l'échec de Bayrou qui voulait réduire notre endettement de 44 milliards d'euros, voilà, enfin de budget, et n'a pas réussi. Si bien que des mesures permettant de dégager de nouvelles recettes pour l'État semblent incontournables. Bon, la dette est énorme, On veut pas dépenser les, on veut pas baisser les dépenses de l'État, donc à un moment les gens se disent bon, on va augmenter les impôts. Hein. Enfin, la taxe Zucman a gagné la bataille de l'opinion, je vous le disais tout à l'heure. Un sondage commandé par le PS à l'IFOP, dévoilé en septembre, a montré un soutien massif des Français à la taxe Zucman. 86% des personnes interrogées se déclarent favorables, avec un taux de 75 à 96% selon les sensibilités partisanes. Voilà. Une preuve supplémentaire écrit le Monde du sentiment d'injustice fiscale qui prévaut au sein d'une grande part du pays, et dans les cortèges syndicaux du 18 septembre, le slogan « Taxer les riches » a dominé tous les autres. Certains entrepreneurs eux-mêmes le reconnaissent, les inégalités de patrimoine se sont fortement accrues ces dernières années. Et il faut répondre à ce problème, juge Armand Thiberge, un des fondateurs de l'entreprise de gestion de la relation client Brevo. La taxe Zucman est nécessaire, dit ce patron, applicable et ne décourage pas l'entrepreneuriat, je suis d'accord pour la payer, dit-il. C'est une question de justice et de cohésion sociale, sinon on risque de voir les extrêmes arriver au pouvoir. Vous avez un grand patron ici qui dit que lui, il est OK pour la payer. Alors, ce n'est pas le cas de tous, mais lui, il est OK. La conclusion est limpide. S'il veut trouver un compromis sur le budget avec les socialistes, le Premier ministre Le Cornu devra en passer par une taxation renforcée des très riches. Et personne n'ira pleurer sur les 1800 familles, admet le député centriste Charles de Courson. Bon, c'est le énième article qu'on lit sur le sujet, donc pardon de ne pas refaire tout le débat sur la taxe Zucman, mais on en parle littéralement tous les jours depuis 3 mois. Donc je vous donne juste aujourd'hui la mobilisation de ce mouvement qui monte de mobilisation de ceux qui sont contre, notamment les grandes fortunes et certains chefs d'entreprise. Alors, ça, beaucoup en parlaient dans le chat et je ne répondais pas à vos questions parce que je savais que ça allait venir dans l'article. Hein, une grosse partie de la polémique, c'est sur le fait que le patrimoine professionnel, contrairement à quelqu'un dans le chat qui n'avait pas lu la proposition de M. Zucman disait tout à l'heure, le patrimoine professionnel est compté dans le calcul du patrimoine taxé à hauteur de 2% tous les ans. Pour les grandes fortunes, un point cristallise le mécontentement, la taxation du patrimoine professionnel. La grande nouveauté est là, et c'est elle qui explique ce tir de barrage. Jusqu'à présent, les actions détenues par les patrons avait été considéré comme un outil de travail et exclu de l'assiette, hein, historiquement de l'ISF par exemple, ben voilà, celle de l'ancien ISF sur la fortune par exemple. Or, elle constitue l'immense majorité du patrimoine des Bernard Arnault, des Vincent Bolloré et autres grandes familles. Hein. Si, en gros, si tu enlèves le patrimoine professionnel du calcul, de la base du calcul de la taxe pour ces gens-là, ben, ils ne vont pas être taxés. Quoi. Parce que la plus grande partie de leur richesse, elle est là. Raison pour laquelle Gabriel Zucman veut inclure cette richesse dans sa taxe afin d'éviter que les ultra-riches ne paient en pratique relativement moins d'impôts que les autres. Puisque c'est un fait, les ultra-riches en France, les très 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 riches, ceux dont on parle ici, payent moins d'impôts que les gens en dessous, notamment les riches. Voilà. Les plus riches profitent aujourd'hui de multiples abattements, niches, exemptions qui leur permettent de payer moins d'impôts, explique une sociologue. Avec le projet Zucman, les possibilités de contournement s'annoncent plus limitées. C'est aussi ce qui explique la colère et la peur actuelle. Alors évidemment, il y a le débat que symbolise cette question d'Arthur dans le chat. Est-ce que tu n'as pas peur que Bernard Arnault, que ces ultra-riches partent ? Voilà. Alors, je réponds très vite à ça, même si l'article va peut-être en parler aussi. Il y a eu des études de chercheurs sur le sujet qui montrent que dans le passé, la taxation des ultra-riches via l'ISF a provoqué effectivement des départs, mais pas des départs en masse. Alors, la taxe Zucman, qui va bien au-delà de ce qui a existé dans le passé comme l'ISF, va-t-elle provoquer, elle, des départs massifs ? Impossible de le dire. Il y a Ayakashi qui dit c'est faux. Ah, c'est les chiffres. Ah, c'est les chiffres. Tu peux dire que c'est faux, mais c'est les chiffres. Est-ce que la taxe Zucman va provoquer aussi peu de départs que dans le passé ? Ceux qui disent non dans le chat, vous ne le savez pas. De rien, Arthur. De la même manière qu'il n'est pas contestable de dire que dans le passé, l'ISF a provoqué relativement peu de départs d'ultra-riches, parce que c'est beaucoup plus compliqué à faire qu'on ne le pense, ceux qui disent la taxe Zucman, ça va être pareil, il va y avoir peu de départs, vous ne le savez pas. Ça, c'est un pari. Et ça, bah, il faudra le voir si elle est appliquée. Après, il y a aussi des choses que Gabriel Zucman a répondu à cette crainte. Il a dit on peut aussi assortir cette taxe Zucman d'une exit tax qui fait, en gros, qui est interdit, par exemple, de partir pendant 5 ans ou X années, une grande fortune, de quitter la France, à moins de payer une exit tax, un impôt sur le départ, tellement élevé que ça ne te fait pas partir, quoi. Au-delà, nombre de patrons et grandes fortunes ont le sentiment d'être injustement pris pour cible parce qu'ils ont réussi alors que l'État, lui, a échoué à bien gérer ses finances et à utiliser efficacement l'impôt collecté, quoi. Or, la satisfaction, c'est légal. C'est légal à partir... Et Alex, c'est trop mignon, qui dit « C'est légal ?» C'est légal à partir du moment où une loi le vote. Où il y a des gens qui votent la loi. Alors, ça devient illégal si c'est confiscatoire. Et là, c'est le Conseil constitutionnel qui rentre... Ceux qui sont opposés à cette taxe Zucman disent qu'elle est inconstitutionnelle, elle est confiscatoire. Et donc, il y a un des espoirs de ceux qui sont contre cette taxe Zucman, c'est qu'une saisine du Conseil constitutionnel contre cette loi annulerait cette loi. Et puis d'autres disent non, elle n'est pas anticonstitutionnelle. Zucman, il dit non, elle n'est pas anticonstitutionnelle, au contraire, elle met en œuvre le principe d'équité devant l'impôt, quoi. Je continue mon article. Or, la satisfaction quant à l'utilisation de l'argent public est le premier déterminant du consentement à l'impôt. Voilà. En France, on n'aime pas l'argent, on stigmatise ceux qui deviennent riches grâce à l'entreprise, se désole l'avocate Xenia Legendre qu'on a entendu déjà tout à l'heure. Autant de raisons qui se conjuguent dans les prises de position des derniers jours, le projet concerne très peu de gens. Mais ces derniers constituent le noyau central de la classe dominante et disposent de relais puissants, commente Alexis Spire, qui est sociologue au CNRS, d'où cette mobilisation très forte. Il n'y a pas besoin de chef d'orchestre, tout le monde connaît sa partition. Les premiers violons, comme Bernard Arnault et tous les autres, ceux qui s'identifient, se projettent, se disent « si le mécanisme passe, il risque un jour ou l'autre d'être étendu et de me toucher ». Leur espoir commun, enterrer cette taxe Zucman, ou du moins la remplacer par un succès d'année supportable, un truc avec des exceptions, avec une taxe Zucman, mais qui ne toucherait pas le patrimoine professionnel, avec... voilà. Comment on appelle les exceptions en matière fiscale les... Pardon. Pop. Merci Turin, Tarambar. C'est un nom précis. Oui, les niches. Oui, les niches, c'est ça. Les exonérations, exactement. Voilà. Merci. Voilà. La droite et les macronistes réfléchissent à diverses options. En gros, pour satisfaire le sentiment général de la population française d'injustice fiscale, confère le sondage que j'ai cité, et aussi la gauche socialiste pour soutenir le gouvernement Le Cornu. Voilà. Donc la droite et macronistes réfléchissent à diverses options. En gros, comprenez, sont prêts à lâcher du lest du moment qu'il n'y a pas la taxe Zucman. Ça pourrait être la reconduction de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui a été votée, je crois, l'an dernier, si je ne dis pas de bêtises, ou il y a 2 ans. Un dispositif anti-optimisation visant les holdings, ces coffres-forts où les très riches placent leurs dividendes à l'abri du fisc, ou une hausse de la flat tax qui avait été mise en place par le président Macron sur les revenus du capital. Vous l'avez compris, ils veulent bien lâcher du lest, tout sauf la taxe Zucman. Tout sauf une taxation directe du patrimoine professionnel. Il y a Patatus Maximus qui demande « Et si on renomme la taxe Zucman en taxe Manzuc, est-ce que ça passe ?» C'est pas sûr. Mais à côté de ce mouvement collectif, certains réfléchissent aussi à quitter la France. Vous voyez, je n'ignore pas ce débat. Presque tous les entrepreneurs songent à un départ, assure au journal du dimanche. Un monsieur qui s'appelle Éric Larchevêque, qui est une figure de la tech, un avocat, Xavier Rollet, va dans le même sens. Pour cette population très mobile, partir n'est pas compliqué. Leurs enfants font des études à l'étranger, leurs entreprises y sont actives. Au moins 90% de mes clients qui pourraient être touchés y pensent. Pour l'heure, peu sont néanmoins passés à l'acte. J'ai froid, moi. Il fait froid, hein ? Vous savez, vous avez froid ? Je mets une petite laine. Il fait froid, hein ? Je suis en t-shirt, là. Moi, je mets le moins de chauffage possible. L'hiver, le moins de clim possible. L'été, voilà. Donc, on met des couches. On joue l'oignon. Vous avez... Oui, j'ai mon petit plaid, me dit Faustine. Ouh. Voilà. Petit papy Sam qui fait sa revue de presse. Oui, des couches. Non, pas des couches. Non, pas des couches. Non, des couches de vêtements. La technique de l'oignon. Bon, l'article est intéressant. Alors, on va beaucoup parler de fiscalité ce matin. Par exemple, on va aller voir. Ah oui, la position des entrepreneurs de start-up. Parce que dans ce débat sur faut-il taxer le patrimoine professionnel des ultra-riches, il y a le débat sur les start-up, les licornes. Ces entreprises qui parfois valent énormément d'argent, mais qui ne distribuent pas forcément des bénéfices, en tout cas beaucoup de bénéfices, à ses actionnaires. Et ces gens disent, bah, attendez, les gars, ouais, comme Mistral AI par exemple, ouais. Les gars, vous demandez 2% d'un truc dont la valeur est hypothétique, dont on tire assez peu de revenus, et on ne va jamais pouvoir payer ce truc-là. Alors, il y a un éclairage dans le monde là-dessus, les entrepreneurs des startups françaises divisés sur la contribution des très fortunés. Les créateurs de jeunes pousses reconnaissent qu'un effort fiscal des ménages les plus aisés est nécessaire. Déjà. Mais la plupart dénoncent la mécanique d'un impôt qu'ils estiment injuste. Créateur de jeunes pousses ou aspirant entrepreneur, la start-up Nation, cher Emmanuel Macron, se bousculait mardi à une grande réunion de BPI France. J'y étais pas, moi, on ne m'a pas invité. Le président en déplacement à New York avait enregistré un message saluant l'énergie, la sève, la fierté de notre pays. Blablabla. Bla 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 bla. Voilà. Alors, Le Monde est allé interroger des entrepreneurs rencontrés à ce rendez-vous. Ulfa Marzouk, 45 ans, dit: si ma boîte vaut un jour 100 millions d'euros, je paye les 2% avec plaisir, dit-il. Vous nous faites un débat politique, ça devient compliqué, dit Mina. Alors, moi j'ai beaucoup d'estime pour la presse pour enfants. Hein, Petit quotidien, tout ça, qui essaie d'expliquer l'actualité aux enfants, notamment et puis qui parle beaucoup de science, de dinosaures, de sport, tout ça. Alors ici, on parle de sujets qui sont parfois effectivement un peu complexes, mais je ne cherche pas à les simplifier, à les résumer, quoi. Ce serait une forme d'injure à votre intelligence, quoi. Ce sont des sujets complexes dont on parle tous les jours. Alors, au début, c'est un petit peu abscon même, mais je ne vais pas vous dire. Bon, la taxe Zuckman, les gars, c'est très 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 bien. C'est vraiment très 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 bien. C'est très 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 bien. On va essayer de faire un peu plus compliqué, tu vois, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. On n'est pas au café, quoi. Donc, pardon, ce monsieur-là, il dit: moi, si un jour, si ma boîte vaut 100 millions d'euros, je paye les 2% avec plaisir. En réalité, la plupart des entrepreneurs rencontrés par Le Monde ne se sentent pas concernés. Leur bête noire, c'est plutôt l'URSSAF. Disent ces jeunes patrons. La taxe Zuckman, ça dépend de ton affectation. Si elle peut financer une baisse des charges sociales et patronales pour les TPE, je suis pour, dit par exemple un jeune entrepreneur. Trois piliers de la French Tech: Jean-Baptiste Rudel, qui a cofondé Criteo, Marc Batty, des Taïkous, Armand Tiberge-Brévaux, qui se décrivent comme de futurs assujettis à la taxe de Zuckman, ont pris fait et cause pour le geste fiscal. Eux, ils sont pour. Donc, il y a les patrons qui sont pour. Dans une période où tous les Français vont devoir faire des efforts, les plus aisés doivent montrer l'exemple. Et ce sont des aisés qui le disent, les fameux aisés. C'est une question d'équité, de justice fiscale et surtout de cohérence nationale, disent-ils. Ah, donc ils existent, ces gens. Mais ils restent isolés. Mais ils restent isolés. Voilà. Nous sommes d'accord pour réfléchir à une limitation des capacités d'optimisation fiscale des très grandes fortunes, mais nous sommes inquiets sur le mauvais message que ce type de taxe envoie aux investisseurs internationaux, alors que notre image d'entrepreneur français est déjà très chahutée. Notre attractivité est en jeu, souligne Alain Clos, qui est président de France FinTech. La French Tech déplore que la taxe Zuckman assimile une valorisation d'entreprise qui reste théorique. C'est pas complètement faux. Un patrimoine, pour les entrepreneurs, cela s'apparente à fiscaliser un billet de loterie dont on ne sait pas s'il portera un jour le numéro gagnant. Ces valorisations, parfois gigantesques, sont virtuelles, surtout dans le domaine de la tech, hein. Les banques n'en tiennent même pas compte si on souhaite faire un crédit pour acheter un appartement, souligne un investisseur. En 99, Gilles Huguenin, cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Internet EasyNet, côté à Londres, s'est vu réclamer 2 millions d'euros d'ISF à l'époque, alors que sa participation pesait alors plus de 100 millions d'euros. J'ai déménagé à Bruxelles, cet exemple, j'en ai déjà entendu parler. Je venais de finir mon emprunt pour payer mes études. La plupart de mes salariés gagnaient plus que moi. Cet impôt me semblait injuste, dit-il. La bulle Internet ensuite a explosé. Si je n'étais pas parti, j'aurais payé toute ma vie pour de l'argent que je n'aurais pas touché. Pour lui, l'important est de s'assurer que les entrepreneurs n'échappent pas à l'impôt quand ils vendent leur entreprise. C'est pas inintéressant, ça. Ouais, bah ouais, mais du coup, s'ils ne vendent pas, dit Samuel Etienne. J'en connais beaucoup qui ont quitté le pays au moment où ils réalisaient leur plus-value. Il y a des pistes à étudier pour sécuriser le retour pour l'État français alors que la plupart ont bénéficié d'aides publiques. Mais il faudrait avancer vite. Il souffle un vent anti-entrepreneur qui risque d'entamer la confiance à un moment où les entreprises ont du mal à lever des fonds. Macron avait apporté beaucoup à l'entrepreneuriat. Ce bonus est en train d'être perdu, déplore Mathieu Jarry, fondateur de The Moon Venture. Et on va voir dans un instant que ce débat n'existe pas qu'en France. Mais d'abord, je vous lis. Attendez, je remonte dans le chat. Et je vous lis. Être assez riche pour payer ces 2%, c'est ni plus ni moins que le rêve de tous les Français. Les riches font preuve d'un mépris, dit Carius. On parle des 1800 plus riches de France, dit Nicolas, il faut arrêter de dire les entrepreneurs. Parmi les grands patrons et entrepreneurs que je fréquente, me dit Axel, la plupart déplorent surtout une absence de contrôle aux aides publiques. C'est juste un principe d'équité vis-à-vis des plus modestes, me dit Lebouche. C'est quoi la différence entre l'ISF et cette taxe Zucman? Alors l'ISF qui n'existe plus, Loulou, mais qui va peut-être revenir sous une forme ou une autre, qui a été remplacé par l'IFI. Donc l'ISF, c'était l'impôt de solidarité sur la fortune, mis en place par la gauche, par les socialistes à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, qui a été supprimé, je dirais, alors là, c'est vraiment des trucs de mémoire par Nicolas Sarkozy. Je ne sais plus, j'espère que je ne dis pas de bêtises. En tout cas, remplacé par le président Macron par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, donc avec un calcul d'une taxation des plus riches, non pas sur l'intégralité du patrimoine comme l'ISF, mais l'ISF ne comptait pas le patrimoine professionnel dedans. Le patrimoine professionnel était exclu du calcul de l'ISF. Et l'IFI a encore diminué l'assiette en ne regardant que les propriétés immobilières, maisons, appartements, etc. Voilà. Donc, il y a eu l'ISF, il y a eu l'IFI sous Macron. Voilà. Et la taxe de Zucman, alors c'est différent de tout ça. Ce serait une taxe avec une assiette extrêmement large. Pour résumer, IFI, on taxe que l'immobilier des très riches. ISF, on taxe tout le patrimoine des plus riches, sauf le patrimoine professionnel. Zucman, on taxe tout, 2% des patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Donc Sarko n'avait pas touché à l'ISF ? Ok. Donc c'est Macron, ouais. Très bien, merci à vous. Je vous lis un petit peu, je suis là pour essayer de répondre à vos questions. Oh oui, Axel, je l'avais compris comme ça. Hein. Je l'avais compris comme ça à ton message, hein, bien sûr. Sarkozy déclaré coupable. Ok, on va parler de Nicolas Sarkozy tout à l'heure et on me dit que la Gougoune dans le chat me dit que le verdict est tombé contre Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République. Priorité au direct, comme on dit sur les chaînes info, vient d'être condamné. On ira vérifier cette information tout à l'heure. Je comptais vous en parler. C'est marqué dans le sommaire, c'est bien pratique. On ne connaît pas la peine encore. Alors il faut attendre la peine. Donc déjà jugé coupable, décidément, Il les collectionne. C'est vrai. Vaglet nous rappelle que la taxe du MAN, c'est un impôt plancher. C'est pour être sûr qu'ils ne payent pas moins de 2% de leur patrimoine. S'ils payent déjà suffisamment en impôt sur le revenu, ça ne changera rien pour eux. Un ultra riche, tu as raison, qui paye déjà 2% au plus chaque année de son patrimoine par la somme de tous ses impôts, ne paiera pas cette taxe de Sukman. Il ne paiera que la différence entre ce qu'il paye déjà et 2%. Après, je ne sais pas si ces ultra riches payent déjà 2% ou pas. Salut, Aria. Oh! Alors, moi, je t'envoie plein de force. Voilà. Eh ben, bonne chance pour le concours. Ça passe des concours dans le chat. Un concours de sous-officier de gendarmerie. GG à toi. J'y crois très fort. Ok. Alors, constatons aussi grâce au monde que ce débat il n'existe pas qu'en France. Taxer les milliardaires, le débat monte dans de nombreux pays. Si l'impôt sur les grandes fortunes divise en France, il fait aussi l'objet de mobilisation au Brésil, en Norvège ou au Royaume-Uni. Qui a dit le déficit n'est pas soutenable? Il faut que ça saigne. Ça doit venir des riches, de la classe des milliardaires. Ça ne peut pas venir des classes moyennes. C'est suffisamment dur de s'en sortir. Et qui a dit ça? Devinette. Zucman? Thomas Piketty? L'économiste américain Joseph Stiglitz? La bonne réponse est Steve Bannon. Quoi? Alors attendez, ne tombons pas de notre chaise. Steve Bannon, l'ancien conseiller du président Trump, qui demeure une voix influente du mouvement MAGA. Bannon? Le MAGA? L'ultra-droite américaine, alors je comprends rien là. Méfiance, méfiance. Camoulox, me dit le chat. S'il n'y a pratiquement aucune chance dans l'état actuel des forces politiques que Trump décide de taxer les milliardaires, tu m'étonnes, l'existence de ce débat au sein même de sa mouvance politique en dit long sur la montée de réflexion et de mobilisation dans de nombreux pays pour faire payer plus d'impôts aux grandes fortunes. Au sein de Make America Great Again, chez les Trumpistes, il y a ce débat? Eh bien, heureusement qu'on est assis, hein. Ok. Du Brésil à la Norvège, en passant par le Royaume-Uni et l'Allemagne, les appels à la taxation des grandes fortunes se multiplient. Et depuis quelques mois, la France est au cœur des controverses avec la proposition vivement débattue de l'économiste Gabriel Zucman de fixer un impôt plancher de 2% sur les patrimoines au-dessus de 100 millions d'euros. C'est assez logique. Les États ont besoin de recettes fiscales pour faire face à la transition climatique, par exemple, à la transition démographique, à la hausse des dépenses dans la défense, explique Quentin Parinello. C'est intéressant ce qu'il dit, ce monsieur. Le directeur des politiques publiques de l'Observatoire européen de la fiscalité. Or, avec la hausse des inégalités depuis 40 ans, alimentée par l'envolée des marchés financiers, les milliardaires se sont enrichis plus vite que le reste de la population et que les États. Et ça, ce n'est pas contestable comme chiffre. L'idée de la taxe Zucman a connu un premier grand succès au Brésil, qui présidait le G20 en 2024. Pour l'occasion, le ministre de l'économie avait demandé de faire des propositions fortes, se rappelle un haut fonctionnaire brésilien. Voilà. Le Brésil a donc porté l'idée d'une taxe Zucman à l'échelle mondiale avec un certain succès. Le communiqué final du G20 de 2024 en a approuvé l'idée de base. Nous allons essayer de coopérer pour s'assurer que les individus les plus riches, c'est au G20 qu'ils ont dit ça, soient imposés de façon effective. Depuis, l'équipe autour de M. Zucman est régulièrement appelée à témoigner à travers le monde. Donc manifestement, ce débat n'est pas qu'en France. La présidence polonaise de l'Union, au premier semestre, a fait de même. Des discussions sont aussi en cours aux Nations Unies, à l'OCDE. C'est marrant. Enfin, c'est marrant, c'est intéressant. Reste que pour l'instant, cet impôt a été mis en place nulle part. Cette montée du débat, certains disent, il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était un débat entre militants, maintenant on en parle dans les médias. Cette montée du débat est en partie la conséquence d'une déroute fiscale. Dans les années 90, 10 pays européens avaient un impôt sur la fortune. Il n'en reste que 3. Suisse, Espagne, Norvège. Dans l'ensemble, ces impôts ont été un échec, reconnaissait M. Zucman lui-même. Il rapportait peu à cause de l'évasion ou de l'optimisation fiscale. C'est pour cette raison que l'économiste français propose une solution différente avec un plancher de 2% sans aucune exonération. Le débat sur la taxation des milliardaires ne s'arrête pas à la taxe Zucman. En Norvège, les législatives de septembre ont provoqué un vif débat sur la forme US4, pardon pour la prononciation, impôt sur la fortune déjà en place, contre lequel souffle un vent de fronde patronale. En Allemagne, l'exemple de l'impôt sur les successions des entreprises familiales fait de plus en plus débat. L'exonération était censée aider les PME à se développer, mais de plus en plus d'héritiers préfèrent investir à l'étranger. Force Isaac. Quant au Royaume-Uni, autre pays au déficit budgétaire béant et à la croissance atone, il vient de mettre fin à plus d'un siècle d'exemption fiscale pour les riches étrangers. Intéressant. Ok. Bon, le débat existe aussi dans les pays étrangers. De rien, Isaac, force. Ça va le faire, ça va le faire. Occupe-toi, occupe-toi. Occupe tes journées. Lis, rencontre des gens, fais du sport. Voilà. Ça, tu ne peux pas influer sur le temps que ça prendra à passer et à oublier, mais au moins tu feras quelque chose de ce temps. Ouais, Sarkozy, on va en parler. Jeux vidéo, lecture, cinéma, film, copain, ami. Ah, Samuel, quel est ton pronostic? Tu penses qu'ils vont finir par l'appliquer cette taxe? Alors, dans l'état actuel de. Avec ce président-là, avec ce Premier ministre-là, avec ce Parlement-là, non. La taxe Zucman en France, à court terme, non. Une imposition plus forte des ultra-riches ou de l'ensemble des riches avec des gens à partir d'un certain niveau de patrimoine, peut-être. On va voir. Après, les élections en France qui vont arriver dans pas longtemps, 2027. Point d'exclamation 2027 dans le chat Twitch et vous avez mon projet, puisque vous savez qu'en 2027, on y va. On y va, projet collectif. On co-construit notre programme présidentiel en live. Hein, on essaie de parler des solutions aux problèmes qui se posent à notre pays. Gratix dit « Ah bon ? Bah oui !» Hein ? Et on va, le projet, il est écrit sur noir sur blanc. Je vous le lis. Pour l'exclamation 2027. Le projet pour 2027. Allez sérieusement chercher les 500 signatures. Je mobilise la communauté, amis de TikTok, amis de Twitch, vous allez voir vos élus locaux, vos maires, etc. On cherche 500 signatures, on leur explique la démarche. Donc, du coup, j'ai le droit de me présenter. En fait, après, on co-construit un programme en live, sur Twitch, sur TikTok. Voilà. On en parle de l'actualité tous les jours, on va plus loin, on se dit « Ok, face à ce problème-là, qu'est-ce qu'on fait ? Quelle proposition ? » On en débat pendant des heures, on se met d'accord sur des propositions, voilà, avec toute une batterie de sondages qu'on fait entre nous. Voilà. Ensuite, on propose ce programme aux Français. Voilà. On passe le premier tour. Le but, c'est pas de finir président. Ah si. Voilà. On passe le premier tour, on gagne au deuxième tour. Et puis après, ce programme qu'on aura co-construit, on le propose au Parlement issu des législatives. On leur dit, voilà le programme sur lequel j'ai été élu. Est-ce que vous voulez le voter pour qu'il devienne des lois ? Et si ça ne passe pas, eh bien on propose ces mêmes propositions par référendum. Pour ce qui peut passer par référendum. Voilà mon programme. C'est bon, tu as ma voix. Ok. Trop sympa. Alors, le Figaro, on est toujours sur la fiscalité. Vous savez, on prend un petit peu de temps sur ce sujet ce matin. La gauche fait monter les enchères, la droite se cabre. Là, je vous disais à l'instant, la taxe Zucman à court terme en France, je ne crois pas trop, mais peut-être une hausse de la fiscalité sur les plus riches, peut-être. Et c'est de ça dont parle le Figaro. Sous la pression des socialistes, le Premier ministre, donc M. Le Cornu, pourrait revenir sur la réforme de cet impôt, l'ISF, transformé en IFI, mise en œuvre en 2017 par Emmanuel Macron. Les actifs financiers seraient alors à nouveau concernés par cette taxation. Super. Plus de deux semaines après avoir été nommé à Matignon, le cornu, Sébastien, n'a toujours pas formé son équipe, on attend toujours les ministres, et s'apprête à battre le record du plus long délai de nomination d'un gouvernement. Il prend son temps, il assume, on en a parlé hier. Sous la pression des socialistes, qui exigent une mesure emblématique en échange d'une non-censure, pour que ce gouvernement ne saute pas lui aussi, le Premier ministre semble prêt à concéder, alors non pas la taxe Zucman, mais un retour de l'ISF. Ce serait un ultime reniement pour Emmanuel Macron qui, dès son arrivée au pouvoir, avait transformé cet impôt jugé contre-productif en IFI. Des idées de génie. Ce serait surtout inefficace, juge François-Xavier Bellamy, numéro 2 de LR, rappelant que si le pays est en crise, ce n'est pas parce qu'il manque d'impôts, mais parce qu'il y en a beaucoup trop. Ça, c'est ce que dit la droite. Lisons cet article du Figaro. Donc, le Figaro pense que l'ISF supprimé par Macron va peut-être revenir. L'ISF, c'est l'IFI plus une assiette élargie aux placements financiers en plus de l'immobilier. Je lis pas tout l'article, j'essaie de trouver les passages les plus intéressants. Sébastien Lecornu écrit, le Figaro n'a toujours pas donné le moindre indice sur les mesures budgétaires qu'il serait prêt à concéder au Parti Socialiste pour que celui-ci ne le censure pas. Alors, le camp macroniste tente d'imaginer ce à quoi pourrait ressembler un point d'atterrissage qui éviterait la taxe Zucman réclamée par la gauche. En coulisses, une convergence se dessine pour revenir à une mesure très similaire à l'ancien ISF, supprimée en partie par Emmanuel Macron en 2018. C'est le sens de la proposition formulée mercredi par le patron des députés Modem, Marc Fesneau, un impôt sur la fortune improductive qui ressemble à l'ancien ISF, excluant le patrimoine utile à l'économie, donc excluant donc le patrimoine professionnel. Les milliards d'euros de la société Samuel Etienne, par exemple, ne seraient pas taxés. Cet empire, Twitch, YouTube, TikTok, Instagram, les podcasts, désormais, ne seraient pas taxés. Concrètement, il s'agirait de revenir sur la réforme de l'ISF qu'Emmanuel Macron avait transformée en impôt sur la fortune immobilière. Les actifs financiers seraient à nouveau concernés par cette taxation, mais pas les biens professionnels. La question, c'est à partir de combien on paierait ça, quoi. Ah. Une mesure de ce type est désormais peu ou prou partagée dans les rangs de Renaissance, donc on est chez les macronistes. Même si ce n'est pas de gaieté de cœur, on n'a pas le choix, il faut lâcher du lait sur la fiscalité, constate une ministre démissionnaire, là, actuelle. Hein. C'est pas seulement une demande du PS, c'est plus profond dans le pays où il y a un fantasme autour des riches. Merci, Olive. Dit-elle. Il faut un symbole, que ça nous fasse mal et que ça ne tue pas l'économie, et ça s'appelle l'ISF, dit un député macroniste. Problème, les Républicains attendent le cornu au tournant, parce que si les macronistes sont prêts à lâcher du lait sur la fiscalité pour obtenir la non-censure des socialistes, à droite, du côté de LR, on dit non, non. Hein. Inquiet la droite à la perspective qu'il cède au slogan « taxer les riches ». Cette mesure serait en tout cas une entaille majeure dans le bilan de Macron, qui a toujours voulu préserver sa politique dite de l'offre favorable aux entreprises et investisseurs. Action couronnée de succès à ses yeux, qui prend à témoin la baisse du chômage, le redressement de l'attractivité en France. Intéressant. C'est très intéressant ce qui va se passer. Dans le temps, je vous lis un petit papier sur où en est Sébastien Lecornu de ses discussions avec les syndicats, avec les partis politiques, pour savoir en gros quel gouvernement il va former, quelle politique contrat de gouvernement il va proposer, quel budget il va proposer, ben, dans les prochains jours, semaines, on va savoir quelle fiscalité, quelles propositions en matière de fiscalité vont être faites. Voilà. Tiens, ben, y a un éclairage dans le Figaro sur ce à quoi pourrait ressembler cette ISF nouvelle formule. Un néo-ISF. Je vais aller directement à ce qui nous intéresse. Voilà. Déjà, le Figaro rappelle que l'ISF avant, ça rappelait 4 milliards d'euros. Ça rapportait 4 milliards d'euros. L'IFI actuel, ça rapporte la moitié à peu près, 1,9. Voilà. Donc, ça permettrait de retrouver 2 milliards, peut-être 3 milliards d'euros par an en plus, quoi, avec ce nouvel ISF. Alors que les socialistes espèrent 20 milliards avec la taxe Zucman. Alors, combien de contribuables assujettis à ce nouvel ISF ? La taxe Zucman, on parle de 1 800. Voilà, l'ISF, en 2017, au moment de sa suppression, concernait 358 000 foyers qui avaient un patrimoine supérieur à 1,3 million d'euros. Voilà. Donc là, on est loin des ultra-riches. Les ultra-riches, c'est les 0,01%. Là, il y avait 358 000 foyers à l'époque qui payaient l'ISF. Mais les signaux politiques tendent à indiquer que le nouvel ISF, s'il voit le jour, concernerait une portion plus réduite de la population que l'ancien. Ça toucherait peut-être pas 358 000 personnes, peut-être moins. Ok. Ok, à suivre, c'est intéressant. Bon, mais ça, c'est la petite fiction, on ne sait pas ce qui va se passer encore. C'est pas ultra riche, 1,3 million d'euros, c'est les riches normaux. Ouais, Nicox, c'est ce que je dis à longueur de stream. Mais tu n'as pas dû écouter. Les ultra riches, c'est 0,01%, c'est à partir de 100 millions d'euros de patrimoine. Je vous lis. L'IFI existe-t-il toujours, me demande Nitram. Oui. Si c'est le cas, sera-t-il supprimé si la taxe Zucman est adoptée? Bonne question. Je ne sais pas. T'inquiète, Nicox. Est-ce que Twitch, c'est de gauche, me demande Criozola. À un moment, il faut arrêter de tout politiser. Hein. Je ne sais pas si la question est pertinente, en fait. Twitch n'est que la somme des streams qui sont proposés, quoi. Donc, je ne sais pas s'il y a plus de gens de sensibilité de gauche qui streament que de gens de sensibilité de droite. Bah, dans ce cas-là, la réponse pourrait être oui, mais est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. En tout cas, rien n'empêche les gens de sensibilité de droite, si tu veux absolument simplifier les choses en gauche-droite, rien n'empêche ces gens de streamer. Rien n'interdit à ces gens de streamer. Rien n'interdit d'ailleurs à des gens d'extrême droite de streamer aussi. Je ne sais pas s'il y en a, mais... Sur YouTube, il y a des contenus un peu comme ça. Salut le Pays Basque, salut Georges. Allez, un dernier mot d'impôt pour parler de choses qui va vous concerner plus si vous êtes salarié. Hein, pas besoin d'être ultra riche pour ça. Messieurs, le montant net de votre fiche de paie risque de baisser. Alors pourquoi ça parle que des hommes? En fait, ça part d'une statistique qui est hélas celle-ci, que les hommes en France gagnent plus que les femmes. Bon, ça, j'espère que c'est une info pour personne. Un jour, ça changera, mais c'est le cas aujourd'hui. Donc ça part de là. Et ça parle du prélèvement à la source, hein, réforme il y a quelques années, qui, pour les couples qui font une déclaration de revenus ensemble, jusqu'ici, le prélèvement à la source, la case qui était cochée de base, c'était, OK, vous êtes deux, on va calculer en fonction de vos revenus un taux d'impôt moyen qui va s'appliquer aux deux. Vous pouviez cocher une case, si vous le souhaitiez, c'est ce que je fais moi depuis toujours, pour un prélèvement à la source individualisé. Si, par exemple, mon épouse gagne moins d'argent que moi, en cochant cette case, elle allait avoir un taux de prélèvement plus faible. Alors que si je ne cochais pas cette case, on avait le même taux tous les deux, et du coup, elle avait payé plus d'impôts en proportion que si elle avait fait une déclaration d'impôts séparée, quoi, si on n'avait pas été ensemble pour faire la chose. Eh bien, la règle change. Maintenant, la règle, c'est le prélèvement à la source individualisé. Vous pouvez toujours choisir un taux commun, mais il faut le préciser au moment de la déclaration. Voilà, je vous explique ça, c'est tout simple. L'effet papillon, un petit changement de taux d'imposition, un gros coup de bambou pour les hommes mariés ou pacsés au moment de recevoir leur fiche de paie à la fin du mois. Je vais vous dire ce que j'en pense. Depuis le 1er septembre, le prélèvement à la source individualisée est entré en vigueur pour tous les couples mariés ou pacsés. Okay ? Concrètement, ça signifie que pour chaque membre du foyer fiscal, c'est un nouveau taux qui s'applique par défaut, correspondant au revenu de la personne. Une évolution destinée à protéger celui qui gagne moins. Or, celui qui gagne moins statistiquement en France, dans un couple hétéro, c'est la femme. Ça, c'est statistique. J'y peux rien, je le regrette, mais c'est comme ça. Tous les couples mariés et pacsés sont-ils concernés par cette évolution automatique ? Oui ou presque. Depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source en 2019, les conjoints pouvaient déjà individualiser leur taux. Moi, c'est ce que je fais depuis toujours, donc pour moi, ça ne va rien changer. Mais sur les 40 millions de foyers fiscaux français, seuls 6 millions avaient opté pour cette solution. Ça, je l'apprends. Voilà. Y aura-t-il un impact en espèces sonnantes et trébuchantes sur les fiches de paie ou le montant des pensions des membres du couple à la fin du mois ? Bah oui, bien sûr. Hein. En tout cas, pour ceux qui n'étaient pas déjà en taux individualisé. Quoi. Les hommes avec des salaires et des pensions plus élevés, en moyenne d'une façon générale, devraient perdre davantage que les femmes, surtout, ils vont payer ce qu'ils auraient dû payer depuis le début, si je puis me permettre, dans la mesure où ils tiraient la plupart du temps avantage de ce taux foyer. En cas d'écart de salaire important, celui des deux qui gagnait le moins, souvent les femmes, dont le salaire moyen est inférieur de 22,2% selon l'INSEE, voyait son taux gonflé. Voilà. À l'inverse, celui qui gagnait mieux sa vie profitait d'une belle ristourne. Bon. Hein. Le montant global de l'impôt par le foyer reste le même, bien sûr. Hein. Seule la répartition de ce prélèvement évolue. Le conjoint qui gagne moins sera moins prélevé sur son salaire, ce qui me semble normal, tandis que celui qui gagne plus contribuera proportionnellement en conséquence. Ce qui me semble normal aussi, si je puis me permettre. Exemple concret offert par l'administration fiscale, un couple sans enfant gagnant 5100 euros par mois total, 3500 pour monsieur, 1600 pour madame, affiche un taux d'imposition moyen de 5,8%. Donc, avant les gens qui n'avaient pas coché le truc individuel, en gros, eh ben, monsieur voyait 5,8% de son salaire retenu à la base sur sa fiche de paie, et madame aussi. Hein. Et donc, madame payait un prélèvement mensuel de 93 euros et monsieur 203 euros. Mais avec le taux individualisé, qui me semble plus logique, eh bien, madame va voir son taux tomber à 0,4% au lieu de 5,8% et ne paiera plus que 6 euros. Et monsieur verra son taux passer de 5,8 à 8,3 et paiera 290 euros au lieu de 203 euros. Voilà. Les allergiques au changement peuvent revenir, s'ils le souhaitent, au taux foyer facilement avec le service gérer mon prélèvement, blablabla. Bla bla bla. Bon, c'est tout simple. Bon, pour moi, il n'y a pas de débat, mais je vous le dis pour vous informer un petit peu. Quoi. Les bons comptes font les bons amis et les bons amants, me dit Victor. Ok. Donc, dans l'exemple, le couple paye plus d'impôts. Alors, normalement, non, à moins qu'ils aient fait une erreur. Normalement, non, c'est impossible. Alors, calculette. J'espère que les... Imagine si Bercy s'est trompé dans son calcul. Alors, qui me dit ça ? Au minéral, dans l'exemple, le couple paye plus d'impôts. Alors, donc, t'as raison en plus. Regarde. Ah non, tu t'es trompé. 203 euros avant pour monsieur et 93 euros pour madame. 296 euros. Et après le calcul individuel, 290 euros pour monsieur plus 6 euros pour madame. 296 euros. Voilà. Les comptes sont pas bons, Kevin. Ben, du coup, ils sont bons. D'autres questions ? Que se passe-t-il si le couple n'est pas d'accord, sachant que très souvent, un seul remplit la déclaration dans les deux? Bah, en vrai, si monsieur insiste pour payer moins d'impôts alors qu'il gagne plus, et que madame qui gagne moins ait un taux d'impôt supérieur à ce qu'elle devrait payer tout seul, bah madame, quittez-le en vrai. Barrez-vous en vrai. Pas déconner, hein. Voilà, maman, question simple, réponse simple. Ça revient à la même du coup. Ouais. Sauf que bah, chacun des deux n'a pas le même prélèvement sur le salaire. Donc, madame, dans l'hypothèse où madame gagne moins, eh ben, elle aura un peu plus à la fin du mois sur sa fiche de paie. Capiche? C'est quoi l'intérêt du coup, Sam? Bah, je viens de répondre. Voilà. Alors évidemment, si vous mettez tous vos salaires sur le même compte et que bah, ça ne change rien au final. Ça dépend après comment vous vous débrouillez. Moi, avec mon épouse, on a pas un compte commun. On paye, chacun paye un peu. Là-dessus, on est pas très compliqué, quoi. Mais du coup, je trouve ça assez juste que sur sa fiche de paye, il y ait moins de prélèvements sur la sienne que la mienne, quoi. T'as bien un compte commun pour le Prémo? Ouais, vite fait, ouais, vite fait. Mais bon. Enfin, là-dessus, ça se fait en bonne intelligence. De toute façon, quand vraiment, quand il y a de l'amour et qu'il y a de l'intelligence dans le couple, c'est des sujets qui se règlent assez facilement, quoi. Hein? Oh, le troll, il y a B125 qui écrit, mais si elle a plus d'argent, elle gaspillera plus, c'est le serpent qui se mord la queue. Quoi? Attends, j'ai pas compris là. C'est quoi? C'est moi qui ai mal compris ou c'est moi qui ai mal compris? C'est quoi ce. Attends, historique, historique. Où est-ce qu'il est le chouchou? C'est du troll, c'est pas possible. 10 messages, ah ouais, ça sent. Oh là. C'était une vanne? Je sais pas quoi faire de ce message. Il manque un capa là. Hein. Bienvenue au Moyen-Âge. Hein. Enfin, même au Moyen-Âge, je pense qu'on était un tout petit peu plus éclairé sur le sujet, non? Ce qui fait écrire à Sarah, et je valide la blague, pitié que le serpent qui mord la queue soit sa meuf. Il a répondu ironie. Ah ouais. C'est vrai que les blagues sexistes, c'est assez drôle en vrai. Non. Non, mais l'humour, il faut réviser vos standards d'humour, les gars. Je pense, hein. C'est mieux. En 2025, quand même. Allez, on change de sujet. Allez, Sarkozy! La justice! Hop, et on part sur Sarkozy et le TC, c'est quoi? Allez, 1h44. On a passé une heure sur la fiscalité. Pop, 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 pop. C'est fou, ça. Incroyable. Qu'est-ce qu'il a dit dans le chat? Sarko, au cachot. Ok. Alors, sommaire. Hop. Je vous mets le bon sommaire, ami TikTok. Pourquoi ça marche pas? Eh, désolé, mais l'outil TikTok Live par rapport à OBS sur Twitch, pourquoi on peut pas streamer avec OBS sur... j'ai compris.
Ok. Voilà. Let's go. Alors, Sarkozy, le délibéré est en train de tomber actuellement. Le Monde fait un live dessus. Ok. On le vit en direct. Alors, on attend le délibéré. Le délibéré, c'est le contenu du jugement pour ce nouveau procès de Sarkozy. Donc, page 14 dans Le Parisien ici. Sarkozy, à l'heure du jugement, une lourde peine de 7 ans de prison est requise à l'encontre de l'ancien président dans le dossier du présumé financement libyen de sa campagne de 2007, campagne perdue d'ailleurs. La décision doit tomber ce jeudi et on l'attend d'un instant à l'autre. Et vous savez quoi ? On va le vivre en direct. Est-ce que c'est 7 ans ? Est-ce que ce sera plus ? Est-ce que ce sera moins ? Pour Nicolas Sarkozy, l'instant est crucial, écrit Le Parisien. L'ancien président de la République joue son honneur et sa liberté. Ce jeudi après-midi, le tribunal correctionnel de Paris rend sa décision dans le dossier des soupçons de financement libyen, de l'argent étranger qui vient financer une campagne présidentielle. C'est un petit peu embêtant. Voilà. Dans le financement de sa campagne de 2007. Même s'il a déjà subi plusieurs revers judiciaires qui l'ont symboliquement privé de sa Légion d'honneur, l'enjeu est tout autre. On lui a déjà retiré sa Légion d'honneur. Il a déjà été condamné. Il a déjà eu un bracelet électronique dans une autre affaire. Et vous m'avez rappelé tout à l'heure qu'on lui avait enlevé son bracelet parce qu'il avait dit... ses avocats ont dit « Ouais, mais il est vieux, il a passé 70 ans, enlevez-lui le bracelet, ils vont peut-être lui en remettre un autre. » D'abord, la nature des faits qui lui sont reprochés. Ah non, c'était dans une autre affaire le bracelet. Enfin, je vais tout te rappeler, t'inquiète. Il a deux jambes. Ouais, mais on lui a enlevé son bracelet. Donc il aurait pu avoir deux bracelets, enfin une petite collecte, mais a priori, il n'en aura qu'un puisqu'on lui a enlevé celui d'avant. La nature des faits qui lui sont reprochés, le financement occulte de son accession à la magistrature suprême par un état paria, la Libye de Muammar Kadhafi. Voilà. Après l'avoir présenté comme le véritable décisionnaire et commanditaire d'un pacte de corruption conclu avec un dictateur terroriste et sanguinaire, le parquet national financier a requis à son encontre 7 ans de prison et 300 000 euros d'amende. L'accusation n'a pas réclamé de mandat de dépôt, c'est-à-dire une incarcération immédiate. S'il est condamné, vous ne verrez pas Sarkozy emmener menottes aux mains en prison directe. En cas de condamnation, l'ancien président ferait immédiatement appel et échapperait ainsi, sauf immense surprise, à la case prison. Il n'empêche, une décision aussi infamante provoquerait un séisme. C'est quand même un ancien président de la République. Si je ne dis pas de bêtises... Je crois bien me souvenir que lors de sa première condamnation, qui lui a valu ce premier bracelet, c'était la première fois qu'un ancien président de la République, de la Ve République, était condamné par la justice. Donc le mec, il enchaîne. Enfin, je veux dire, il bisse. A contrario, une relaxe ne manquerait pas d'alimenter un ressentiment à l'égard de l'institution judiciaire en mode « Ouais, la justice, fort avec les faibles, faible avec les forts. » Il enchaîne. Ah, j'ai pas fait exprès. Alors Chirac, non. Chirac n'a pas été condamné de... Chirac n'a pas été condamné pour des faits liés à son statut d'ancien président. Moi, ouais, c'est Juppé qui a pris. Voilà. Exactement. Puis après, Chirac, il est mort. Exactement. Chirac, lui, n'a pas été condamné. Longuement interrogé au cours des trois mois d'audience l'hiver dernier, Nicolas Sarkozy s'est acharné à défendre son innocence. Aux yeux de ses avocats, le prétendu pacte de corruption avec Kadhafi serait une construction artificielle dont il n'y aurait aucune preuve, ni accord, ni flux financier, occulte, ni contrepartie. Les débats sont concentrés sur de curieuses visites. C'est quoi ces curieuses visites ? Effectuées en octobre et décembre 2005 en Libye par Claude Guéant et Brice Hortefeux. Voilà. En amont et en aval du saut de puce à Tripoli de celui qui était alors ministre de l'Intérieur, Sarkozy. Deux déplacements au cours desquels ces deux proches de Sarkozy ont rencontré le directeur des services du renseignement libyen. Voilà. Malmenés par le tribunal, les deux hommes ont eu toutes les peines du monde à justifier ces rencontres. Pourquoi ils étaient allés à Tripoli ? Oui, peut-être du tourisme, Old Linux. Oui, on ne sait pas. Voilà. Ils ont dit qu'ils avaient été piégés par un intermédiaire. Voilà. Piégés par Ziad Takedine, qui vient de mourir d'ailleurs. Il y a un jour ou deux, il y a deux jours. Dépeint comme un agent de corruption par l'accusation, le franco-libanais aurait servi de courroie de transmission à la manne libyenne Personnage clé dans cette affaire, Takieddin, qui était sous le coup d'un mandat d'arrêt, est décédé ce mardi à Beyrouth. Ah oui. On m'invite à manger une pizza. Ah, c'est bien ça. Donc, je vous passe tous les détails de l'affaire. Alors, le parquet national financier l'admet, il n'existe pas de preuves irréfutables. Mais un faisceau d'indices suffisant à ses yeux pour entrer en voie de consommation, de condamnation. Je viens de parler de pizza, donc je pars sur autre chose. La défense fustige quant à elle une accusation sans consistance minée par les excès et les mensonges. Voilà. Donc, est-ce que. Alors, on me dit que tout à l'heure est tombée la condamnation. Enfin, la condamnation. Le tribunal l'a jugé coupable. Mais on n'a pas encore la peine. Donc, on va aller voir ça en direct live. Donc, déjà, innocent, coupable, coupable. A dit la justice. Combien ? Ça, on ne sait pas. Voilà, France Info. Bim, bam, boum. Vous ne l'avez pas. Et vous l'avez. Ici. Pourquoi vous ne l'avez pas, vous, sur TikTok ? Vous l'avez que sur Twitch. C'est parce que j'ai refait mes scènes. Bon, bah, faites-moi confiance, je vais vous lire le truc, d'accord ? Alors, qu'est-ce que dit le France Info ? Alors, déclaré coupable d'association de malfaiteurs. Vous le voyez ? Ah bon, je ne l'ai pas, moi. Sur TikTok, vous le voyez ? L'article de France Info, vous l'avez ? Non, vous ne le voyez pas, c'est bien ce que je disais. Ok. Donc, Sarkozy, déclaré coupable d'association de malfaiteurs, mais relaxé des autres chefs d'accusation. La peine n'est pas encore prononcée. Ok. Ok. Bon, on attend le jugement alors. Coupable d'association de malfaiteurs, mais relaxé des autres chefs. Les autres chefs, c'était quoi ? Relaxé des chefs de corruption passive. Relaxer des chefs de détournement de fonds publics libyens, relaxer des faits de financement illicite de campagne électorale. Bon, ça sent une peine assez réduite. La lecture du jugement pourrait durer entre 2h30 et 3h. Ok. Ouais. Ok. D'accord. Analyse et critique. Ah, enfin, ça fait 15 minutes que je vous le dis. Enfin, t'es pas au McDo ici, analyse et critique. On fait ça à notre rythme, si tu veux. Moi, j'ai un ordre d'articles, je le fais. Hein. Si tu veux te taper des heures de chaîne info qui répètent pendant des heures la même chose en te faisant croire que le monde est en train de s'écrouler à chaque seconde, vas-y. Mais si chacun veut absolument placer son info non-stop, ça va être compliqué à vivre. Hein. Vous êtes 3300 sur Twitch, 300 sur TikTok, t'imagines bien que c'est pour la carte, quoi. Voilà. Et alors, merci Libération. Libération revient sur les condamnations précédentes. Quoi. Merci Xiliam. Affaire Bismuth, Big Malion des casseroles en cascade. Parce qu'il y a déjà eu condamnation. Déjà sous bracelet électronique et après sa condamnation dans le dossier des écoutes dit Bismuth, merci Loupka. Et dans l'attente d'une décision pour l'affaire Big Malion, l'ancien président pourrait voir son fardeau judiciaire s'alourdir encore ce jeudi. Par contre, si vous voyez la peine tomber, ça m'intéresse. Quel que soit le jugement, relax ou condamnation, Nicolas Sarkozy n'en a pas fini avec les affaires. Nous dit Libération. Parce que le 8 octobre, donc ça c'est dans quelques jours, la Cour de cassation va examiner son ultime recours dans l'affaire Big Malion, dans laquelle il n'a pas été définitivement condamné encore. soit le financement de la campagne présidentielle suivante de 2012. D'ailleurs, je dis une connerie, 2007, il a gagné. Tout à l'heure, je dis qu'il avait perdu. 2007, il gagne, c'est 2012 où il perd. Je corrige tout de suite cette erreur. L'ancien président avait été condamné à 1 an de prison ferme en première instance. Peine réduite par la cour d'appel à 6 mois ferme. Voilà, mais là, il y a cassation. Si le pouvoir est rejeté, l'ex-locataire de l'Élysée aura le droit à un second bracelet électronique. Il y a celui qui l'a déjà enlevé. Ça lui en ferait un là. Et imaginons qu'il en a un dans l'affaire libyenne, ça en ferait deux. Après, il a deux jambes. Après, il a deux jambes. À suivre. Pour mémoire, c'est quoi Big Malion ? C'est un record qui sera très dur à battre de dépassement de frais de campagne électorale. Pas moins de 42 millions d'euros engagés pour une tentative désespérée de se faire réélire à l'Élysée, donc on est en 2012. Avec un plafond maximal de 22 millions. Donc il avait fait x2, quoi. La loi autorisait 22 millions de dépenses de campagne, il avait fait x2. Le candidat avait notamment demandé à son équipe de lui organiser un meeting par jour dans la dernière ligne droite de campagne pour tenter de coiffer François Hollande sur le fil, et il n'avait pas réussi. Donc la cour d'appel avait dit « Sarkozy s'est obstiné au mépris des règles de plafonnement qu'il connaissait parfaitement. Une peine ferme est indispensable pour réprimer les faits commis et niés avec la même obstination. » C'est un président de la République qui ne respecte pas la loi, quoi. Son premier bracelet électronique, il le doit à l'affaire dite, non pas Big Malion, mais Paul Bismuth. Ah bah faut suivre, hein. Il y en a pas mal. Le pseudo qu'il s'était donné avec son avocat et ami Thierry Herzog pour installer entre eux une ligne de téléphone parallèle, se sachant mis sur écoute dans le dossier Bettencourt. Dans leur conversation de 2014, les deux compères évoquaient le cas d'un haut magistrat de la Cour de cassation qui pourrait les informer sur le déroulement de l'affaire en cours, voilà, ce qui n'est pas super nickel. Voilà, en droit pénal, on appelle ça corruption et trafic d'influence. Voilà. Raison de la condamnation à 3 ans de prison, dont un ferme. Là, il y avait eu bracelet. Et puis vous m'avez expliqué tout à l'heure qu'on lui avait enlevé quand il a passé 70 ans. Voilà. Respectueuse de la fonction présidentielle, la Cour avait jugé que la partie ferme sera aménagée sur surveillance électronique à domicile. Le bracelet. Et il a perdu aussi sa Légion d'honneur. On valide la blague de régime, si t'as pas de bracelet électronique à 70 ans, c'est que t'as raté ta vie. Le à domicile, le Parc des Princes. Oui, après, oui, il y a trop de choses bizarres. Comment s'appelait déjà l'ancien garde du corps de Macron, là, qui avait été condamné aussi puis il avait tapé sur des manifestants, là. Benalla. Alexandre ? C'est ça ? Alors lui, un jour, je le croise, j'avais un rendez-vous professionnel dans un bar chic, un hôtel chic. Voilà. Et je vois Alexandre Benalla dans ce bar chic, dans cet hôtel chic. Et je me dis, c'est bizarre. Il n'a pas été condamné, lui. Et je trouvais ça chelou, quoi. Et donc, on se regarde. Bon, il voit vaguement qui je suis, puisqu'on se regarde. Je le regarde aussi. Et effectivement, à sa cheville, il avait le bracelet. Alors, c'est vrai que la notion de surveillance électronique à domicile, le gars était littéralement dans un hôtel très chic parisien. Voilà. Ouais. Donc, ça m'avait étonné, quoi. Avec son bracelet à la cheville, quoi. Je sais pas si c'est possible, ça. En fait, entouré de garde du corps, non, il était tranquille en train de boire un coup. Ah, ils ont des heures de sortie, me dit King Julien. Peut-être, oui. Sauf s'il vit à l'hôtel. Vu l'hôtel, il fallait un budget. Peut-être un stage de réinsertion, ouais. Tu as le droit, mais tu dois prévenir l'administration pénitentiaire, me dit Marie-Lyon. Ok, d'accord. Tu as des heures de sortie fixées par le juge d'application des peines. Ok, d'accord, ok. Autant pour moi. Ok. Bon, enfin, ça avait l'air d'aller, quoi. D'accord. Voilà. Donc voilà, on attend. Hein, on attend le jugement. Vous me dites hein, dès qu'il tombe. Est-ce qu'il y a la peine de prison ferme ou pas ? Ah, une prison dorée, oui. J'aimerais tellement voir Nicolas Sarkozy enlever des graffitis à Paris. Ah, un petit tige ? Un petit travaux d'intérêt général ? Oui, j'ai froid. Oui, j'ai froid. Alors, vous me tenez au courant, hein, dès que ça tombe, ok ? Il faut attendre de délibérer. Bah oui, c'est ce qu'on dit. Alors, on va parler de cyberharcèlement. Alors, on va parler des cyberharceleurs. Là. Justice, toujours. Bim, bim. Intéressant, ça. La flèche, on la change et on part sur les cyberharceleurs de la DJ Barbara Butch. Puisque vous m'avez expliqué tout à l'heure qu'on disait pas Butch, mais Butch. On est à 2h01 de stream. Voilà. Tchouk. Alors, et je vous le mets sur TikTok aussi. Ah, le CTRL Z ne marche pas sur TikTok. Rien... Hey, TikTok, c'est. Hey, pardon, mais l'outil de stream sur TikTok, c'est une dinguerie. Hein. Pardon, hein. Une dinguerie, hein. Oh là 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 là. C'est bien TikTok, moi j'aime bien, hein, mais sur leur outil de live, il est pas fou, quoi. Dommage. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Les cyberharceleurs de la DJ Barbara Butch jugés. Un mix pour l'histoire suivi d'une violente campagne de cyberharcèlement. Voilà. Il n'y a que Libé qui en parle, et encore c'est un tout petit article, et moi j'ai décidé d'en parler. Un mix pour l'histoire suivi d'une violente campagne de cyberharcèlement, parce que je pense qu'il faut parler de ce genre de choses. Le 26 juillet 2024, Leslie Barbara Butch montait sur la passerelle de Billy dans le 7e arrondissement de Paris pour performer entouré de drag queen et de Philippe Catherine déguisé en Dionysus Bleu, vous rappelez, hein, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Le tableau festivité. Oh, je trouvais sympa. Mais bon, qui a fait couler beaucoup d'encre. Après sa prestation, elle reçoit un déferlement de messages haineux sur les réseaux sociaux. Alors, messages haineux, menaces de mort, menaces de viol, messages à caractère grossophobe, lesbophobe et antisémite. Le combo. Non. Voilà. Et on est derrière son pseudo sur Internet et on se croit bien fort. Voilà. Et on menace les gens de mort, de viol, et tout quoi. Bon. Eh bien, c'est bien que la justice s'en occupe un petit peu. 5 de ces cyberharceleurs présumés sont jugés ce jeudi devant la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, je peux déjà vous parier qu'ils vont être moins fiers. C'est toujours la même ligne de défense, c'est toujours les mêmes excuses. Ah ouais, mais en fait, je ne pensais pas que mon message serait lu. Ah non, mais je ne pensais pas du tout qu'on verrait ce message. Ah, je ne le pensais pas. Et puis, je ne vais pas bien dans ma vie aujourd'hui. C'était sur le coup de la colère. Et vraiment, je regrette... Monsieur ou Madame la juge, je ne recommencerai pas. C'est toujours la même chose. Quoi. Voilà. C'est très courageux derrière son ordinateur ou son téléphone, et après, il n'y a plus personne. Quoi. Je ne pensais pas faire du mal, c'était pour rire. Fermez vos gueules, en fait. Surtout, en fait. Tous des hommes, âgés entre 24 et 57 ans, résidant dans le Rhône, les Alpes-Maritimes, l'Indre-et-Loire ou la Moselle. Oui, j'étais bourré aussi, ouais. Selon France Info, 3 ont été interpellés en décembre et sont accusés d'avoir envoyé des messages privés sur Instagram. Donc on n'est pas sur un message dans un fil, c'est ça DM directement la personne. Ah ouais, mais je me suis trompé, c'est pas là que je voulais l'écrire. Je suis pas très fort en informatique. Les deux autres ont été interpellés dans un second temps, en mars, comme l'a révélé RTL. Contacté en amont de l'audience de ce jeudi, Maître Audrey Mselati, avocate de Barbara Butch, qui sera présente à l'audience d'ailleurs, explique que sa cliente compte sur ce procès pour être regardée par les auteurs et humaniser les menaces dont elle a été la cible en ligne. Un symbole de sensibilisation et de pédagogie, dit-elle. Dans le communiqué sur Instagram où elle annonçait porter plainte en juillet 2024, la DJ affirmait « Toute ma vie, j'ai refusé d'être une victime. Je ne me tairai pas. » Tweet, post TikTok, commentaire selon Maître Audrey Mselati, plus de 50 000 messages. Toutes plateformes confondues ont pris pour cible Barbara Butch. Comme ce message privé reçu sur Instagram, pardon pour la violence des mots, je vous le lis, c'est un exemple de ce qu'elle a reçu. Alors, on ne fait pas attention aux fautes d'orthographe, on ne juge pas. On vous traquait jour et nuit, on vous lâchera jamais, on va tabasser très fort, on voit... Pardon, hein. Alors je vous laisse lire, parce que il y a des mots que je ne veux pas prononcer, faut pas déconner. Voilà. On va vous faire y saigner du nez, vous voulez... On ne juge pas la conjugaison. Hein. Du sang, va y en avoir. Voilà, ça c'est un des 50 000 messages qu'elle a reçus. Voilà. Est-ce que ça t'est arrivé à toi de recevoir des messages violents comme ça ? Ah oui, bah oui, sur Internet, oui. Oui, mais enfin pas dans cette proportion, pas 50 000 quoi. Voilà. Donc, voilà. Là aussi, moi je suis intéressé de voir le jugement de ce que décidera la justice. Il faut être costaud. Ça, il faut être costaud pour encaisser ça. Hein. Voilà. Mais le chauffage, non, moi je fais attention aux économies d'énergie, tout ça. Salut à Modem, force. Voilà, bon, je voulais vous en parler vite fait parce que ça me semblait important alors qu'il n'y a qu'un seul article ce matin. Parlons maintenant de Trump. Voilà, on va revenir sur les déclarations de Trump devant l'Assemblée générale de l'ONU et revenir parce que c'est important, c'est comme le président de la première puissance mondiale. Et aussi parce qu'il y a un truc sur l'Ukraine qui nous avait échappé hier et dont le monde parle beaucoup. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Peut-être qu'il faut en parler. Donc on est à combien là ? 2h07 ? Allez, 2h08. Je vous fais un prix de gros. J'adore parce que vous savez, j'ai appris à me méfier de l'utilisation par certains des réseaux sociaux et je me rends compte par exemple que là, on a parlé 43 minutes de fiscalité, de la taxe Zucman. Et on a parlé par exemple que. Combien précisément 7 minutes 7 minutes de l'affaire Barbara Butch. Voilà. Et je viens de vous le rappeler, il y a un seul article dans la presse ce matin, personne n'en parle, moi j'ai décidé de vous en parler. Et il y a un monde où ça peut donner sur Twitter quelqu'un qui poste ce sommaire en mode c'est vraiment une raclure hein, celui-là. Je vous l'avais dit, hein. Il est vraiment problématique, Samuel Etienne. Vous vous rendez compte qu'il parle je peux déjà vous écrire le tweet. Ça ne parlera pas de la taxe Zucman, ça ne parlera pas de la condamnation de Sarkozy, parce que ça ne parlera pas de Trump, tout ça, parce qu'en fait ça montre qu'on s'intéresse au vrai sujet. Mais ça dira, vous vous rendez compte que sur 3 heures de stream, il n'a parlé que de 7 minutes du procès des cyberharceurs de Barbara Butch. Voilà, ça pourrait être écrit comme ça. Je préchote parce que j'ai déjà eu affaire à ce genre de comportement. Mais bon, voilà. On sait comment ça fonctionne et on sait d'où ça vient. Alors, Trump. À l'ONU, la charge tous azimuts de Trump. On va revenir sur ce qu'il a dit et notamment sur ce qu'il a dit sur l'Ukraine. L'Américain a fustigé les Nations Unies et les politiques migratoires et climatiques de l'UE, ça en a beaucoup parlé. Faisant volte-face, il a assuré mardi, ça c'est très nouveau et ça nous a échappé hier, que Kiev, que l'Ukraine, pouvait gagner la guerre. Donc on va revenir sur ce qu'il a dit par ailleurs, pour ceux qui l'auraient raté, mais vite fait quand même. À l'ONU, Trump affiche son mépris des institutions. À New York, le président américain a mêlé... invectives contre les Nations Unies, attaques contre l'Europe sur les migrations et le climat, on a longuement parlé ces deux derniers jours. Et volte-face inattendue sur l'Ukraine, alors ça pour le coup, ça m'avait échappé. Bon, est-ce qu'on revient sur ce qu'il a dit sur les migrants, sur l'Europe Pourquoi personne ne lui demande ses sources, demande THD ? Ah bah pour le coup, c'est le discours de Trump, ça, il est public, tu n'hésites pas à aller le consommer. C'est quoi ses sources ? Bah, c'est Trump. Ah, à moins que je parle des sources de Trump. Ah, ça, les sources de Trump qui affirment que le réchauffement climatique, les changements climatiques sont une vaste blague, moi, je n'ai pas la source de Trump là-dessus. J'avoue. Parlons peut-être des sources de Trump. Et là, je ne les ai pas. Je ne les ai pas. C'est peut-être ça ta question. Alors, je vais rappeler vite fait ce qu'il a dit, quand même. Bon, je passe sur son coup de colère sur l'escalator en panne et sur le prompteur en panne. Hein. Voilà. Donald Trump ne fait plus semblant à écrire Le Monde. Il ne prétend à aucune respectabilité au langage diplomatique. Sans considération pour les valeurs libérales que les États-Unis ont prétendu défendre et incarner pendant des décennies, le magna s'est félicité de pulvériser des bateaux supposément aux mains des cartels de la drogue au large du Venezuela. Il a fait la leçon aux Européens sur l'immigration, sur le climat. Un monstre à deux queues qui menacerait leur existence, leur conseillant de privilégier des frontières fortes et des énergies fossiles. Il a dit que le charbon, c'était formidable. Source, Trump. Enfin, il a attaqué l'ONU en termes inédits. Deux. Alors, je vous passe tout le détail, on va pas revenir sur les dingueries qu'il a dit. Voilà. Alors, quand même, sur le climat, quand même. Hein. Selon le président américain, en Europe, de nombreux pays sont souvent au bord de la destruction en raison des énergies renouvelables privilégiées. Source, Trump. Qualifiant le changement climatique de plus grosse escroquerie jamais organisée aux dépens du monde. Source, Trump. Le dirigeant a promis aux Européens la déchéance s'ils ne changeaient pas de cap. Les énergies renouvelables, une blague, trop cher. Les éoliennes pathétiques, source, Trump. Tout le monde dit que je devrais avoir le prix Nobel de la paix. Source, ok, vous avez compris le principe. Intéressant. Le milliardaire ne s'est pas appesanti sur la reconnaissance de l'État palestinien par de nombreux pays, dont la France. Ce qui, en vrai, est une surprise. Sa retenue a été notable, tant sur d'autres sujets, on le sait, capables de critiques et de menaces. Trump s'en est pas pris à la France pour sa reconnaissance de l'État palestinien. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, je passe assez vite parce que moi, je voudrais m'intéresser à l'Ukraine parce que ça, je l'ai raté hier. Ah, mais c'est parce que c'était pas dans son discours. C'était sur son réseau social Truth Social. All right. C'est pour ça qu'on l'avait pas vu. OK. Dans l'après-midi mardi, Donald Trump a publié un message stupéfiant sur son réseau Truth Social. Truth Social. Au sujet de la guerre en Ukraine. C'est pour ça qu'on ne l'avait pas vu. Un message marquant un renversement radical de sa propre ligne suivie depuis 8 mois. Jusqu'à présent, le président américain avait prétendu que l'Ukraine, malgré son courage, n'avait pas les cartes pour se défendre face à la puissance russe. Hein ? Il n'était question que de concessions territoriales. Mardi, il a qualifié la Russie de tigre de papier, estimant qu'une vraie puissance militaire aurait mis une semaine à l'emporter. Pop. Poutine a dû adorer. Il a aussi clamé que les Ukrainiens pourraient être en mesure de reprendre leur pays dans sa forme originelle, voire plus, sans préciser s'il avait aussi en tête la Crimée annexée en 2024. Pop. Le président russe Vladimir Poutine et la Russie ont de gros soucis économiques. Il est temps pour l'Ukraine d'agir, en misant sur le fait que le coût de la guerre provoquera une érosion du soutien populaire en Russie. Si cette volte-face est spectaculaire, alors, est-ce que Trump est en train de virer pro-Ukraine et a décidé d'aller casser la gueule à Poutine ? Voilà, calmons-nous. Si cette volte-face est spectaculaire, écrit Le Monde, il serait hasardeux d'anticiper une nouvelle approche américaine. Aucune livraison directe de batteries antimissiles n'a été annoncée, par exemple, au profit de Kiev. Nous allons continuer à fournir des armes à l'OTAN pour que l'OTAN en fasse ce qu'elle veut, a déclaré le président américain. Voilà. Interrogé sur la confiance qu'il aurait en Vladimir Poutine, Trump a répondu « Je vous le dirai dans un mois environ ». Plus personne ne compte dans ce dossier les échéances, les ultimatums aussi vite oubliés par le président américain. Hein, si l'ONU se paie de mots selon ce dernier, Trump n'en est pas avare non plus. Hein. Les actes parleront davantage, en particulier les arbitrages à venir sur le redéploiement des dizaines de milliers de soldats américains déployés sur le continent européen. Alors, il y a un changement de ton. La question que pose le monde, c'est est-ce que ce changement de ton va provoquer un changement dans le soutien des États-Unis à l'Ukraine, quoi. On n'a pas encore le jugement chez Sarkozy ? La peine, vous ne l'avez pas ? Toujours pas ? Toujours pas. Ok. Priorité à l'info. Pourquoi les politiques se mettent au podcast ? Ok. Article dans la Croix. Intéressant. Hop. 2h16 de stream. La flèche. Hop. Et après, on parlera de jeux vidéo tout à l'heure. Oui, oui, le podcast de Bayrou est évoqué d'ailleurs. Exactement. Carrément. Ça, c'est ainsi dans le monde. Pourquoi les politiques se mettent au podcast ? De plus en plus de personnalités politiques participent à des podcasts, alors podcasts, audio, vidéo, bon, bah, c'est, la Croix fait pas le distinguo, bah, on en a eu ce débat tout à l'heure, comme l'a fait Édouard Philippe le 21 septembre dans Légende. Légende, c'est Guillaume Play, je crois. Un format de communication plus approfondi que les réseaux sociaux, mais qui frôle parfois les frontières de la télé-réalité. Intéressant. Quel est le point commun entre Édouard Philippe, Sébastien Lecornu, Nicolas Sarkozy, Jordan Bardella et François Ruffin? Tous ont déjà participé à un podcast, un format de communication politique en plein essor. Aux États-Unis, la campagne présidentielle 2024 s'est en partie jouée sur ce terrain-là. Donald Trump, il a très peu parlé aux médias traditionnels. Il est énormément allé parler aux podcasteurs, aux créateurs de contenu américains. C'est notamment son fils, comment il s'appelle, qui lui avait proposé ça, quoi. Comment il s'appelait son fils qui l'avait incité à faire ça. C'est pas Jared ? Non, on parle de Trump. C'est Baron ? Ah si, il s'appelle Baron, son fils. Baron Trump ? Pourquoi j'ai Jared en tête ? Ah, Jared, c'est pas son beau-fils ? Baron, merci beaucoup. Baron Trump. Donald Trump a notamment participé au podcast de Joe Rogan Experience, qui a généré 50 millions de vues rien que sur YouTube, soit l'équivalent d'une semaine entière de l'intégralité des Daily Show américains. Beaucoup de vues. C'est ce qu'explique Grégory Pouille, analyste culturel, fondateur des podcasts Vlan et Ping, qui prédit une montée en force pour l'élection présidentielle française de 2027. Imaginez, je fais une parenthèse, un candidat pour la présidentielle de 2027 qui utilise essentiellement les plateformes, les réseaux. Imaginez une campagne qui serait menée quasiment exclusivement sur Twitch, sur TikTok, sur Insta, sur YouTube. Ce serait incroyable. Qui pourrait penser à ça ? Hein ? On se le demande ? Voilà, ce monsieur prédit une montée en force pour l'élection présidentielle française de 2027. Eh oui, qui pourrait avoir cette idée ? On ne sait pas du tout. En France, deux podcasts écoutables aussi bien en vidéo sur YouTube qu'en audio sur les services de musique en ligne comme Spotify, je rappelle que cette revue de presse est désormais arrivée en podcast audio, tirent déjà leur épingle du jeu. Le premier s'appelle Légende, bon, j'ai jamais regardé, il a été créé en 2022 par Guillaume Play. Qui est Guillaume Play ? Un ancien animateur sur Énergie et chroniqueur dans l'émission La Sulfureuse Émission, écrit Le Monde, touche pas à mon poste, de Cyril Hanouna. Quid de gagner du temps de parole sur les podcasts ? Zéro arnaqueur, il n'y a aucun encadrement législatif du temps de parole sur Internet. L'encadrement, il est que pour la télé. Et un petit peu la radio, je crois aussi. Ok. Je vois des mots assez critiques sur Guillaume Play. Je ne connais pas ce jeune homme, je ne connais pas son travail, mais je vois des mots assez critiques. Ok. Ok. Ah ouais. Ok. Okay. Donc Guillaume Play, 3 millions d'abonnés sur YouTube. Il fait partie des podcasts les plus écoutés. Le second est porté par Sam Zira. Alors lui, c'est quelqu'un qui s'intéresse plutôt à l'actualité People. Spécialiste des célébrités de la télé-réalité qui cumule 2 millions d'abonnés sur YouTube. Les deux n'y connaissent pas grand-chose en politique. Interviewent aussi bien des stars du X et des rappeurs. C'est précisément ce qui fait la clé de leur succès selon Grégory Pouy. Ils sont perçus par leurs auditeurs comme des personnes qui leur ressemblent et se posent les mêmes questions qu'eux. Paradoxalement, leur manque de neutralité ne les dérange pas. Sam Zira et Guillaume Play reprennent les mêmes codes que leurs confrères américains. Ils misent sur des discussions qui se veulent bienveillantes et décontractées, sans esprit de contradiction et aux limites de la complaisance pour les amener à confier des histoires personnelles. Ce qui marche, c'est de donner une impression d'intimité et d'authenticité avec des détails concrets de la vie. Ils attendent moins des arguments politiques que des confidences, analyse un expert en communication. Les politiques utilisent ces formats pour casser l'image froide et s'adresser aux électeurs comme à des voisins. Par exemple, quand un élu raconte la honte de ne pas avoir pu payer son loyer, cela percute 1000 fois plus que 3 minutes de chiffres sur le logement. Je m'arrête et je vous lis là-dessus. Il y a eu un clash Guillaume Play Domingo dans lequel ce dernier balançait quelques dossiers. Ok, j'ai pas la ref, ok. Iron Finger me dit c'est un très mauvais intervieweur. Il ne fait que de la relance sans apporter de contradiction. Donc un invité un peu malin peut tirer tout le bénéfice d'un tapis rouge déroulé pour lui. Intéressant. Avec les règles de l'ARCOM sur le temps de parole, est-ce que ce serait possible en France de faire uniquement campagne sur Internet? Ouais. Bien sûr. Tout à fait. Sarko est passé à légende, un vrai sketch, me dit Chantal. C'est quand même très dangereux de dépolitiser la politique, me dit Balekigno. C'est intéressant tout ça. Waouh, Snowball écrit, c'est le journalisme niveau zéro, puis tu rajoutes une dose de démagogie et de mise en scène, tu as légende. Ouh, ça tire à balles réelles dans le chat. Même Hanouna a arrêté de bosser avec lui, me dit Gilbert, parce qu'il était problématique avec ses équipes.
Ok.
Se décrète-t-il comme intervieweur pas sûr des sandwichs aux cheveux? Il a l'air d'être plus dans le divertissement et de s'assumer de la sorte, c'est pas un journaliste d'investigation. Alors je pose la question, est-ce qu'il faut recevoir des politiques quand toi-même, tu ne te décris pas comme intervieweur? Est-ce qu'il faut inviter des politiques quand toi-même, quelque part, tu dis que tu n'as pas les compétences pour faire des interviews politiques et d'être, comme tu le dis, sandwich aux cheveux, dans le divertissement et en plus de l'assumer? Je pose la question. Il y a de la demande, donc il a raison de continuer. Ok. Est-ce que l'information est un produit comme les autres? Exactement, je s'ouvre le débat. Moi, je me souviens d'un mec qui est arrivé sur Twitch, il a interviewé des anciens présidents et des premiers ministres en exercice. Ouais. C'est un gars qui faisait ce métier depuis 30 ans et qui avait fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'interviews politiques dans sa vie. Voilà. Et puis j'ai arrêté de le faire parce que ça a tellement été mal accueilli sur Twitch, ça a été tellement violent que j'ai dit, bah écoutez, si ça vous plaît pas, eh ben vous n'avez qu'à le faire vous-même. Et plutôt que d'inviter les politiques sur Twitch, je vais plutôt lancer ma propre campagne présidentielle dessus. Je vais m'auto-inviter, exactement. Je ferai des interviews de moi. Voilà. Je ferai des interviews très punchy de moi et je n'hésiterai pas à me mettre en difficulté. Je n'hésiterai pas à porter la contradiction contre mes propres propos. Voilà. J'espère bien que Samuel Etienne, l'intervieweur, mettra en difficulté Samuel Etienne, le candidat. Tout va bien. Avec des questions que évidemment que je n'aurais jamais anticipées. C'est ça qui est incroyable. Évidemment que je ne divulguerai pas à Samuel Etienne les questions que je lui poserai. Est-ce que tu réacteras des politiques qui critiquent contre le programme? Ça, ce sera FBI, ça, ce sera sympa, ça, on fera ça, ouais. Penses-tu que d'ici quelques années, les réseaux sociaux pèseront plus dans la balance que les campagnes classiques? Oui, Marceau, j'en suis convaincu. Vous me prenez de court, Samuel. Je n'avais pas imaginé cette question, exactement. Écoutez, c'est une bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée, mais d'abord, j'aimerais dire quelque chose. Vous voyez, ce genre de truc. Je réacte à mon débat avec le PS. Trax, incroyable. Continuons l'article. Un format plus horizontal que celui des médias traditionnels est complémentaire des réseaux sociaux. TikTok et Instagram, c'est l'affiche électorale avec des mini-vidéos qui s'avalent comme des chips. Le podcast, c'est la politique plat mijotée. Il faut du temps, de la patience, les deux se nourrissent, résume Florian Silnicki. Alors que les réseaux sociaux se battent pour quelques secondes d'attention, les podcasts accompagnent les auditeurs dans leurs activités quotidiennes, ce qui crée un contexte unique d'écoute. On est déjà sur un temps plus long, c'est vrai. Raison pour laquelle des personnalités politiques de tous bords s'y mettent. Il y a notamment de jeunes loups qui n'ont pas accès aux médias traditionnels et utilisent le podcast comme un raccourci. Les outsiders qui veulent court-circuiter les filtres médiatiques, sans oublier les vétérans en reconquête d'image. Au lieu d'apparaître comme des éléphants fatigués, ils deviennent des grands sages qui prennent le temps d'expliquer. Certains se risquent même à créer leur propre podcast, comme l'a fait l'ancien Premier ministre François Bayrou cet été pour parler de la dette publique, avec un succès limité. Bon, ça, on va dire les termes, ça a fait un gros flop. Les politiques peuvent toutefois s'y brûler les ailes, selon le spécialiste en communication. Si l'élu se met trop au niveau de l'influenceur, son statut et son autorité politique se diluent. Le prix est lourd s'il parle davantage de ses ruptures amoureuses que de ses projets de loi. D'autant plus que l'objectif est de ses présentateurs est de créer du buzz, au risque de tomber dans le sensationnalisme. Sam Zira ne s'en cache pas. La politique, c'est de la télé-réalité, clame-t-il régulièrement. C'est intéressant, hein? Ah, François Hollande aussi a lancé un podcast, ok. Comment les gens gagnent de l'argent sur le podcast? Tu parles des influenceurs? Ben, je crois qu'il y a des espaces, je crois qu'il y a des pages de pub qui sont parfois diffusées, je ne dis pas de bêtises, avant le podcast, à la fin, et parfois au milieu aussi. Je crois qu'il y a un modèle économique comme ça. Les abonnements? Ah bon, il y a des abonnements aussi? D'accord. Sponsor, pub. Ah oui, il y a sponsor aussi. Ah oui, il y a sponsor potentiel. Merci Charlie Moncello. Comme une vidéo YouTube, ouais. Ce qui est dangereux pour moi, me dit Criozola, c'est que tous ceux qui passent dans ce type de podcast donnent un air vraiment sympa. Mais il faut garder son esprit critique. Il n'y a effectivement jamais de contradiction envers les invités. À titre personnel, j'aime bien. J'en apprends sur la personnalité politique du paysage français. Mais voilà, il faut garder son esprit critique. C'est hyper intéressant ce que tu dis. À quel point c'est éthique qu'un homme politique se la joue cool via un podcast ou autre au final? Waouh! Quentin dit « Les gens gagnent de l'argent surtout parce que les invités paient pour participer. » Info ou fake news? Ça, c'est très intéressant ce que tu dis, mais est-ce que tu peux le démontrer? Parce que c'est fou en vrai. Alors, imaginons qu'on apprenne que Nicolas Sarkozy, par exemple, paye pour passer dans un podcast comme Légende. Alors, ça, ce serait un vrai truc. Est-ce que c'est une vraie info? Moi, je ne l'ai pas vu, ça. Parlons des finances de France Télévisions. Pas de souci, Cathy, on a parlé plus d'une heure hier. Tu l'as en replay sur Twitch, sur YouTube, c'est gratuit. N'hésite pas. Il n'y a pas de code de déontologie pour l'animation. Irex, tu as complètement raison. Merci Miyakira pour ton message très sympa et pour le sixième mois. Alors, il y a Cathy à qui je viens de répondre qu'on en avait parlé pendant une heure hier. Cathy qui a deux secondes, qui a dit parent des finances de France Télévisions. Je lui ai dit, c'est en replay sur Twitch et YouTube. On en a parlé hier dans la revue de presse. Tu l'as en podcast audio. Et Cathy écrit France Télévisions. Alors, Cathy, on en a parlé hier pendant une heure. Tu l'as en replay sur Twitch et YouTube, également en podcast. N'hésite pas à aller voir. Alors, Cathy continue le débat et écrit Vive Pascal Pro. C'est mon plaisir, c'est mon bonheur, c'est du caviar. Cathy, on attend la suite, là. Alors, la suite, c'est Ben oui.
Ok.
Moi, c'est ce que j'aime, moi. Moi, c'est mon kiff. C'est le chat. Cathy, petite... Elle m'a traité de tartuffe ? J'avais pas vu. CNews, il parle vrai. Cathy, on t'écoute. Cathy, on est là, on ne censure pas. Tant que le propos n'est pas insultant, discriminant, illégal, parce que raciste, antisémite, sexiste, homophobe, que sais-je, on ne sanctionne pas. Donc, Cathy, on est tout oui. N'hésite pas. On est assez ouvert. Ça peut faire du bien aussi de dire ce qu'on a sur le cœur. Cathy, non, c'est fini. Okay. Cathy, moi aussi. Cathy, moi aussi. C'est-à-dire, toi aussi, t'es ouverte ? Ah bah super. Nous aussi, on aime beaucoup discuter. Voilà, bah, n'hésite pas. Tu peux faire profiter de tes analyses. Ok. Nous voilà pour le podcast. C'est intéressant. Hein, du coup, je surveille le. J'ai absolument envie de savoir la suite. Allez, et on va parler de jeux vidéo pour terminer. Vous me suivez s'il y a de nouveaux messages. Là, je ne voudrais pas les rater, celui-là. Parce qu'il y a un peu de content, un peu de divertissement, ça fait pas de mal quand même. Ok, les jeux vidéo. Il n'y a plus ? Il n'y a plus ? Ah, dommage, putain, c'était bien pourtant. Et alors, le TC, on est à combien là ? Appliqué. Ok. Et on TC, on est à 2,33. Ok. Mes commentaires sont censurés. Ah non, 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 je pense pas, non. Ah, sauf si c'est, hein, si c'est illégal ou s'il y a des insultes. Il y a peut-être un peu de modération. Moi, je ne supprime rien. Hein. On est à combien, là ? Là, on est à 2h33. Ok. Ah, c'est TikTok qui censure des mots ? Ah, c'est pas moi, c'est TikTok. T'as dû écrire des mots un petit peu... Hein ? Hein ? Un petit peu chouchou, hein ? Ça, c'est pas moi, c'est TikTok. Bon, jeu vidéo. Bah, on finit doucement. Ça parle... Alors, Les Échos, c'est un journal économique, d'actualité économique, et qui parle énormément des jeux vidéo et... Plutôt sous l'angle économique, mais en vrai, si tout le monde parlait autant des jeux vidéo que Les Échos, ce serait hyper intéressant. Rappelons que c'est quand même le premier secteur culturel, économiquement parlant, à travers le monde. Hein. Le chiffre d'affaires de l'industrie du jeu vidéo, rappelons-le une dernière fois, c'est plus que le cinéma et la musique réunis. Alors, Les Échos en parlent. Le report du jeu star GTA 6 profite à ses concurrents. On a déterminé tout à l'heure que ce n'était pas un nouveau report de GTA 6. Hein, que c'était l'ancien report, mais du coup ça laisse un peu de place pour d'autres jeux qui arrivent là ou qui sont arrivés déjà. Donc c'est Les Échos, Marceau. Call of Duty Black Ops 7, Borderlands 4, on y a joué un petit peu, et le traditionnel opus d'EA Sports FC, la fin d'année sera riche en sorties, on est heureux. Vive CNews et mon Pascal Pro. Cathy, on t'aime, était un tout petit peu en boucle. De quoi garnir la hotte de Noël avant le très attendu GTA 6 prévu l'an prochain. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est mignon. Merci Max. Merci encore Miakira. Le proverbe n'a jamais été aussi vrai dans l'industrie du jeu vidéo. Dans l'attente du blockbuster GTA 6, les éditeurs de jeux concurrents profitent au maximum de l'espace commercial laissé vacant par le jeu déjà promis à tous les records. On attend tous GTA 6. Bien sûr. C'est le cas du studio de développement Sucker Punch qui a mis au point la super production Ghost of Yotei, édité par Sony, qui sera commercialisé le 2 octobre. Je l'ai pas ce jeu-là. Ouais. Alors, le problème, c'est que moi, je me rends compte que je peux plus mettre. Comment ça se fait ? Bouge pas. Je regarde un truc. Je voulais avoir le trailer du film. Il est bien ce jeu ou pas? J'avais vu le trailer il y a longtemps déjà? Ok, d'accord. Ghost of Your Day. Édité par Sony, commercialisé le 2 octobre. L'un de ses dirigeants confiait récemment que l'annonce en mai du report de GTA 6, prévu pour fin 2025, désormais attendu en mai 2026, donc ça avait été un report d'un an, avait été un jour formidable et fêté comme il se doit en interne. C'est cool. Nous sommes tous encore en gueule de bois qui dure depuis plusieurs mois, dit-il, soulagés de ne pas se retrouver en concurrence frontale avec un titre à nul autre pareil dans l'industrie GTA 6. Ghost of Yotei, on me dit que j'ai déjà vu la bande-annonce et que j'avais envie d'y jouer. Il est beau le jeu. Ça sort quand? Ça, le 2 octobre? Ok. Nous sommes. Ok. Ce décalage a clairement ouvert des fenêtres de tir sur le second semestre. Un jeu comme Battlefield 6, moi j'ai très envie d'y jouer là, il arrive bientôt. Ce soir, il y a un monde où je voulais lancer Battlefield 5, moi. Je voulais lancer, pourquoi pas ce soir, Battlefield 5? Enfin, jouer à un Battlefield ancien, parce que j'ai envie de me familiariser avec l'univers de Battlefield avant le 6. Mais il y a un monde où un célèbre streamer youtubeur qui commence fait ses premiers pas sur Valo. J'ai une confirmation là. M'a demandé de le guider sur Valo ce soir. Est-ce que vous voulez que je vous leak ce truc? Là, je suis en train d'échanger avec lui. Je voulais jouer à Battlefield ce soir et en fait, je vais former quelqu'un à Valo. Ça n'a évidemment aucun sens. Ça n'est pas Emilien. Ça n'est pas. Oui, Meshoot, tu as deviné. Benkour, tu as deviné. Oh merde, vous pouvez enlever le ban du sur Twitch, le ban du mot, s'il vous plaît. Les modos. C'est Carlito. C'est Carlito qui m'a demandé si je pouvais le. Les modos, vous pouvez enlever le, s'il vous plaît. Discrètement. C'est Carlito qui m'a demandé si je pouvais lui montrer Valo ce soir. Voilà. Voilà. Donc ce soir, on fait un live à partir de 20h, tous les deux, sur Valo. Et moi, vous connaissez mon niveau sur ce jeu, je vais lui montrer comment jouer à Valo. Je ne sais pas du tout. Alors, je vais avoir besoin de vous. Je ne sais pas comment on va faire. Est-ce qu'on fait de la five stack? On part en unranked, peut-être? Merci, Étienne. Voilà. Est-ce qu'on part en five stack, en unranked, et on accompagne Carlito? Ça pourrait être sympa. Hein, la team Sugar, tout ça. Hein? Je pense que je vais me mettre. Bon, on lui demandera peut-être de se mettre en vocal avec tout sur Valo, c'est peut-être le plus simple. Plutôt que moi, je l'ai sur Discord et. Ouais. Ça doit lui faire plaisir d'avoir un joueur VCT pour débuter. Voilà. Bravo pour la promotion, professeur Chibre. Un simple avec Pascal? Avec qui? Avec Pascal Pro? Hein? Il pourra sûrement pas ranked s'il a un nouveau compte. Non mais unranked. Alors pourquoi sur le chat Twitch, pourquoi Carlito était un ban word? Parce qu'en fait, la semaine dernière, on faisait un stream sur Valo. Ici, on était en five stack avec la team et on était sur le point de passer Silver, ce qui n'est pas arrivé la première fois en 2 ans sur Twitch. Donc. L'enjeu était dingue et subitement, on a vu toute la commu de Carlito débarquer dans le chat en disant « Ouais, tu veux pas montrer à Carlito comment on joue à Valo? Parce que il lance, c'est un peu compliqué, c'est le bordel et tout. » Et nous, on était, mais à 2000% en train d'essayer de passer Silver, si tu veux. Donc, c'était carrément pas le moment de partir en cours sur Valo, quoi. Sauf que c'était un message sur deux. Et donc, j'ai dit au modo, discrètement, est-ce que vous pouvez ban le mot Carlito? Pas ban Carlito. Mais ban le mot Carlito. Parce que nous, on était sur le silver. Qu'on a passé d'ailleurs. Voilà. Et après, j'ai envoyé un vocal à Carlito sur Insta pour lui dire écoute, tes viewers sont venus me voir pour savoir si je pouvais te montrer le jeu. Mais là, je ne pouvais pas parce que j'étais en train d'essayer de passer Silver. Et donc, voilà. Et il m'a dit si tu veux, on le fait une autre fois. Donc. Ah, c'est intéressant. Merci, Gris. Et donc, du coup, voilà. Donc là, on a unban le mot Carlito. Et ce soir, on joue avec Carlito et je le forme sur Valo. Ça va être quelque chose. Imaginons qu'un présentateur télé lambda se présente à une présidentielle. Est-ce que son temps de travail et question pour un champion sera décompté par l'ARCOM? Non, en fait, il ne sera décompté à l'ARCOM que si, pendant question pour un champion, je parle de ma candidature. C'est ça dépend de quoi tu parles. Quoi. Voilà. Donc rendez-vous ce soir. Très bonne question. Mustic, tu vas lui conseiller quel agent? Quel agent on lui conseille ce soir? Un débutant? Quel agent on conseille Carlito ce soir? Moi, j'aurais dit Phoenix, ouais. Ouais, ça va flasher, ça va piquer les yeux. Hein. Ou Sage.
Sage.
Le mec avec le drone? Tu parles de Tero? En vrai, Tero, hein. Ah, tout le monde dit Sage. Sage? Sage tous les jours? Alors, moi, j'ai jamais joué Sage. Donc, faudra. Ouais. C'est dur, Tero? Pas tant que ça. Astra, bah oui, Astra, pour moi, c'est le perso le plus dur. Ouais. Agent municipal, Martin Zing. Gecko, non? Après, Gecko, pour le plante et tout, c'est peut-être pas... Et l'ult, ça. Tero a bien joué, c'est dur? Ouais, bon. Merci pour le balle perdu, Mester. Donc, moi, je joue Tero, mais je le joue peut-être pas foufou. Quoi. Ok, bon, on part sur Sage. Tu mets un manteau chez toi. Oui, mais manteau. Ton sens dans l'observation est assez confondant. C'est juste que voilà, je fais attention aux économies d'énergie et quand il fait froid, je ne mets pas de chauffage. Juste, je mets une couche de plus. Pas une couche culotte. Une couche de vêtements. Et quand il fait chaud, pareil, je ne mets pas la clim. J'enlève des couches. C'est comme ça que parfois, je stream tout nu. N'hésitez pas à venir me voir, c'est un spectacle, comme un autre. Donc, je reviens au jeu vidéo. Voilà. Donc, un jeu comme Battlefield 6, bon, on jouera pas Battlefield ce soir, aurait sans doute été reporté à l'an prochain si GTA 6 était bien sorti en cette rentrée. Voilà. Donc, ça crée des opportunités. Borderlands 4, auquel on a joué, les coutumiers opus annuels d'EA Sports FC, ex-FIFA, Call of Duty, Endless Legend 2, Hell is Us, AIDS 2. C'est pas AIDS, c'est Hades, putain. Je lis comme un con, moi. Hades 2, hein. Silent Hill F, les gamers auront effectivement l'embarras du choix d'ici à Noël. AIDS 2. Le taré. Hades 2. Il y a énormément de jeux qui sortent sur une période très restreinte, confirme le patron du groupe français Nacon. Bon, Alain Falk, quoi. C'est très concurrentiel, mais les signaux du marché sont bons entre la Switch 2 qui a réalisé un démarrage historique et les ventes de jeux qui se portent bien après une période compliquée pour l'industrie. La croissance du secteur devrait s'établir sur un an à 3,4% en 2025, à près de 189 milliards de dollars. On dit Nacon ? Hors achats, consoles et accessoires. L'an prochain, 4% de croissance. Boy. Non, Nini Fenouille, c'est cramé. C'est fini. Ah, désolé. Allons de l'avant. Au-delà de GTA 6 et de certains aspects conjoncturels, la rentrée est aussi une période historiquement chargée. C'est un héritage de l'époque où le format physique se vendait très bien lors des fêtes de fin d'année. Ok. Bon, le marché du jeu vidéo semble reprendre un peu du poil de la bête. Contrairement à Sarkozy. Si je puis me permettre. Reste qu'un bulldozer peut parfois en cacher un autre. Après 6 ans de silence radio, les créateurs du hit Hollow Knight ont pris de court le marché en sortant la très attendue suite Hollow Knight Silksong. J'ai vu beaucoup de streamers y jouer. Le 4 septembre. Depuis, le titre affole les compteurs et s'est déjà vendu à plusieurs millions d'unités. On m'a dit que le jeu était vraiment top et qu'il était dur à jouer. C'était un jeu, il fait dur à jouer, mais très beau. J'ai vu notamment Mister MV dessus. Jeu légendaire. M'a dit Chevalier Cru, Cantopia, c'est une pépite, Samuel, tu devrais essayer. Vachement intéressant. Ok, bon, bah, c'est un article plutôt sympa, c'est positif. Sur eh bien, le marché du jeu vidéo en France. Ok. Bon, les amis, bah, c'était top, hein, cette revue de presse, merci beaucoup. Très dur au niveau d'e-boss. Bon, Sarkozy, pas de nouvelles, on n'a pas le. On sait qu'il est reconnu partiellement coupable, en tout cas d'un chef d'accusation par la justice, là, dans l'affaire du financement présumé illégal par la Libye de sa campagne présidentielle de 2007. Mais c'est, on n'a pas encore le... Alors, condamné, si, mais on n'a pas la peine. D'accord. Ok, on attend. Bon, bah merci. C'est ça qui nous intéressait. Eh bien, un grand merci. Pouf. Pouf. Ami de TikTok. Merci. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Voilà, j'ai réparé TikTok. J'avais cassé TikTok, j'ai réparé. On se retrouve demain matin pour la revue de presse, la cinquième revue de presse de la semaine, hein, du lundi au vendredi, 9h midi, 9h30, midi 30. Voilà, passez une belle journée, passez une belle fin de semaine. Si vous voulez me retrouver sur Twitch, je serai sur Twitch ce soir à 20h avec Carlito pour lui montrer Valorant. On va bien rigoler. On va bien... Ah, il y a Cathy qui nous dit « Vive Pascal Pro !» Cathy, tu nous avais manqué. Et je vous retrouve donc ce soir sur Twitch à partir de 20h avec Carlito pour jouer à Valo. Bonne journée. À demain matin. Ciao. Merci Cathy, hein, tu régales. Tout pour le content, Cathy. Hein. Moi, je kiffe. Merci ami de Twitch. On l'a bien ri quand même. Hein. C'est bien aussi un peu le chat TikTok, on retrouve un petit peu le chat Twitch, mais avant qu'il soit modéré. Hein? 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 C'était sur TikTok. Mais globalement, sur TikTok, ça se tient. Hein. Il y a moins de modération parce que c'est moins en place. Mais ça se tient. Hein. De temps en temps, il y a des Cathy, quoi, mais globalement, ça va. Quoi. Eh, bon, merci, c'était une super revue de presse. Eh, vous avez vu, je vous avais promis en juin. La revue de presse, ce sera tous les jours. Hein. Du lundi au vendredi, hein. On est là. Hein. On est là. Hein. Oui ou non ? Je vous l'avais promis. Hein. La revue de presse, elle est là. Hein. C'est tous les jours. Hein. C'est devenu une chaîne d'infos en continu, ça, cette chaîne-là. Voilà. Et quand il n'y aura pas le matin, eh ben, on la fera le soir. Voilà. Donc lundi, vendredi, j'en suis très fier. Point d'exclamation podcast, désormais c'est un podcast. Également sur toutes les plateformes de podcast, audio, Netflix, Deezer et les autres. Et puis, on se retrouve ce soir à partir de 20h. Si, on va faire un raid. Hier, après MVP, comme c'est pas moi qui suis en régie, c'est plus compliqué. Mais là, on va faire un raid, bien sûr. On va aller voir qui est en live. Et puis, on se retrouve ce soir à partir de 20h avec Carlito. Pour jouer à Valo, on va bien rigoler. Voilà. Pop, qui est en live ? Alors, je vois un streamer que j'aime bien, mais il a pas mis sa cam, là. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, et on a mis Ninion aussi qui est au Japon, là, qui est en train de faire de l'IRL, ok. Ouais. Oh, il y a l'ami. Ouais, bah, les amis sont là, quoi. Ouais. Ouais. Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas aussi pris des nouvelles de. Bah, ouais. Bon, et si on allait s'aérer un peu ? Merci beaucoup, Stars, pour ton retour. Ça va ? Merci, Stars. Ouais, il y a plein. Ouais, il y a Gaspard TV, il y a la petite potière, il y a Lincus, il y a Broco, il y a Aneyaris, il y a plein de gens en live. Et moi, j'ai envie. C'est quelqu'un que j'ai raid plusieurs fois parce que j'aime beaucoup son contenu. Et ça change un petit peu. On va s'aérer. On va dans un jardin. Normalement, vous savez où on va. Il y a un streamer qui s'est lancé sur Twitch, qui s'appelle Jardistream. Et qui nous partage sa passion pour son jardin, hein, pour le potager, pour le voilà. Et c'est l'image est d'une qualité incroyable, il est juste génial. Donc on va voir Jardistream à ce soir 20h avec Carlito pour du Valo. On va bien rigoler. Voilà, c'est en train de charger. Belle journée, bande de beaux gosses. Merci encore pour ce matin. Il a bien percé GG à lui. Ouais, il y a du monde sur son stream. Là, il est avec sa brouette, là. C'est beau. Et puis, en plus, il fait beau chez lui. Allez, à ce soir. Merci encore. Gros bisous.
Parce que sinon, je retourne chercher une brouette de fumier.
C'est le rendez-vous des glandus, là, ou quoi?
Oh, le TTS, ça va être infâme. Oh, putain.
Vous êtes un grand malade mental.
Hello à tous!